Voilà, donc nous sommes au deuxième jour de notre séminaire intitulé Évangile et culture. Comme le pasteur l'a dit hier, c'est la troisième fois qu'on fait ce séminaire. Ça veut dire que c'est vraiment très important. Les tentations, le péché direct sont plus ou moins facilement détectables. Donc on sait que face à une tentation, on sait qu'on est face au mal. Face à un péché direct, on le sait qu'on est face au mal. Mais la culture, c'est quelque chose de sournois, c'est quelque chose de rampant. C'est comme une sorte d'atmosphère qui t'environne. Et ça te tue à petit feu sans que tu t'en rendes vraiment compte. C'est pourquoi on fait régulièrement ce séminaire, parce qu'il y a ce danger qu'on appelle culture qui détruit beaucoup de serviteurs de Dieu. Et là, on m'a envoyé une bande sonore de 2 minutes, hein, d'un serviteur de Dieu qui dénonçait à l'époque, à une certaine époque, un certain nombre de choses dans l'église corps du Christ. Mais et aujourd'hui, ce monsieur est complètement dedans. Comment, et il y a un frère qui m'a dit, mais comment il en est arrivé là pour lui qui dénonçait tout ça? Ça, c'est la puissance de la culture. Ça commence à te saisir par des choses qui semblent neutres. Pas vraiment mauvais, pas vraiment bon non plus, mais qui se fait par tout le monde, qui se font par tout le monde. Des choses comme ça, petit à petit, ça t'amène vers le diable et tu te rends pas compte. Et voilà une explication qu'on pourrait donner de la chute de tant de serviteurs qui ont dit des choses, mais après ils ont changé parce qu'ils se sont fait avoir par la puissance de la culture qui vient masquer, qui ne vient pas clairement, mais qui vient masquer, qui est comme une seconde nature et qui est aussi comme une forme de vérité. Il n'y a qu'à voir comment les cultures entre elles se battent. Tu vas en Russie, tu vas te comporter en français, ils vont trouver ça étrange. Pourquoi ils vont trouver ça étrange? Parce qu'ils considèrent que leur manière de faire, c'est ça qui est la vérité. Nous qui venons de l'étranger avant de s'installer en France, ben beaucoup de choses, on nous posait des questions. Mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais la façon dont on nous posait les questions, on nous pose les questions, ça laisse croire que la personne qui te pose les questions a la vérité. Or, ce n'est pas ça, c'est sa culture. Et c'est comme ça que naissent les incompréhensions, parce que chacun est impacté par sa culture d'origine, et on ne peut pas faire l'unité en Christ, mais on peut surtout pas, la plus grosse difficulté, être un vrai serviteur et tenir jusqu'au bout. On a besoin de lutter contre la culture si on veut aller jusqu'au bout en tant que serviteur de Dieu. Il faut qu'on soit conscient qu'il y a un danger. Si tu n'es pas conscient, tu te feras avoir. Nous commençons par lire Galates 2, 11 à 14. Galates 2, 11 à 14.
Galates 2, 11 à 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?»
Voilà. Ça, c'est l'apôtre Pierre. Céphas, là, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était d'origine juive. Donc, malgré le fait qu'il s'était converti à Christ, malgré le fait que Christ l'avait élevé à un haut rang, il avait la difficulté à se débarrasser des notions de sa culture d'origine. Donc, comprenons que si c'est arrivé à Pierre, ça peut arriver, ça peut m'arriver. Parce que c'est arrivé à Pierre. Donc Pierre, celui qui ne quittait jamais Jésus. Donc quand Jésus excluait les autres, il gardait Pierre, Jacques et Jean. Donc on ne peut pas dire que Pierre ne fut pas au courant de la doctrine de Christ. Il était au courant, mais sa culture était trop forte, sa culture juive. Et dans la culture juive, nous les non-juifs, nous étions considérés comme des sauvages. Des impurs, des intouchables, malgré le fait que Christ, à plusieurs exemples, leur a démontré qu'ils devaient réfléchir autrement. On connaît l'histoire, la parabole du Samaritain, du bon Samaritain. Christ a voulu leur montrer que, avec moi, les étrangers sont considérés. Donc, comme vous faisiez autrefois, c'est fini, mais c'est moi le maître. Quand c'était le sabbat, Christ a dit, c'est moi le maître du sabbat, vous faites ce que moi je vous dis. Donc Pierre était au courant. Il y a l'histoire du centenier romain. Pierre était témoin quand le centenier, Christ a guéri le serviteur du centenier romain. Il était témoin. Pierre était témoin de la guérison de la fille de la femme cananéenne. Pierre était témoin. Et dans Jean 4, la femme samaritaine qui causait avec Jésus au puits, Pierre était témoin, il connaissait la doctrine de Christ. Non seulement la doctrine, mais il a vécu des événements qui lui ont montré que, avec Jésus, on ne doit plus considérer les étrangers comme impurs. Et vous connaissez la plus grande histoire de Pierre. C'est quoi la plus grande histoire? C'est que lui-même a eu une vision. Une grande vision où il voyait des animaux interdits dans les Lévitiques. Et on lui dit, tu et mange. Il dit, mais je ne peux pas faire ça, c'est interdit. La voix lui dit, c'est moi Dieu qui te dit, tu et mange. Il a dit, mais non, mais c'est interdit. Et Dieu lui dit dans le songe, c'est moi qui fixe ce qui est interdit et ce qui n'est pas interdit. Donc Pierre a tout reçu pour être au clair sur la doctrine que les étrangers ne sont plus des impurs, ils sont des gens à sauver. Il a tout reçu, que ce soit avec le Seigneur, que ce soit dans la doctrine, dans la théorie, que ce soit dans les faits, et même après le Seigneur, par le Saint-Esprit, il a reçu ça encore. Un autre exemple que Pierre a reçu, c'était quoi? Le jour de la Pentecôte, ils ont parlé les langues étrangères, ils n'ont pas parlé que l'hébreu, ils ont parlé des langues étrangères. Donc Pierre, avec tout ça, vient faillir en Galatie. C'est pour vous dire la force de la culture. La culture a une grande force. Parce que dans la culture, il y a aussi la culture religieuse. Il n'y a pas que la culture des peuples. Il y a aussi la culture religieuse. Tu viens d'une religion, ou bien tu as été longtemps dans une religion, tu as pris des automatismes et des habitudes, puisque je n'ai pas trop pris la définition du dictionnaire, même si c'est valable, cette définition-là qui nous montre que la culture, c'est les coutumes, les choses qu'on a rassemblées avec dans le temps et puis qui ont une influence sur l'individu. Mais j'ai pris ce qui était pratique, héritage de connaissances, de pratiques, de coutumes, des automatismes, légués par le vécu dans une société, une famille, une école, une religion. Donc dans ton parcours, tu as reçu en héritage un certain nombre de connaissances, de pratiques, de façons de faire. Et c'est devenu comme une seconde nature, quelque chose qui modèle ta vie. Ça a une grande puissance. Vous savez que Aujourd'hui, l'inégalité entre les nations, ce n'est pas dû à l'intelligence. Les Américains sont intelligents, les Français sont intelligents. Nous, quand on fait les études, on a fait les études de mathématiques, physique, les plus grands sont en général les Français, hein, en mathématiques et en physique. Les grands savants qui ont découvert des théories, des théorèmes, en général, c'est les Français. Après, il y a les Allemands, un peu d'anglais, mais ce n'est pas les Américains. Hein. Mais comment expliquer que les États-Unis soient si riches et plus grands, plus puissants que la France? C'est la culture. La culture française, c'est la culture de l'économie. Je ne prends pas de risques. La culture américaine, c'est je prends des risques. La culture américaine, c'est que je cherche dans l'autre qu'est-ce qui va m'aider à aller loin. La culture française, c'est qu'est-ce qui est dans l'autre qui va me gêner, qui va me bloquer. À partir de là, je vais vous citer un exemple. Le professeur qui a découvert le virus de sida, j'ai oublié son nom. C'est qui? De quelle nationalité il est? Français. À 65 ans, on lui dit, pépère, vieux, retraite, tu quittes ton boulot. Un grand savant. Mais puisqu'on est dans le pays de l'administration, 65 ans, retraite. Les Américains disent quoi? Un type intelligent comme ça à 65 ans. Vous savez qu'il y a des Américains qui commencent des études à 50 ans. Il était avocat, il commence les études à 50 ans pour devenir médecin. À 58 ans, il est médecin, mais il se retrouve financièrement et de plusieurs manières. Et il y en a qui font l'inverse, qui à 50 ans commencent les études d'avocat. À 58 ans, il est avocat et il devient riche. À 65 ans, le professeur, on lui dit en France qu'il est, c'est fini. Il est trop vieux, c'est la retraite. Les Américains disent, viens chez nous. Ils l'ont amené là-bas, ils lui ont donné tout un laboratoire. C'est normal que les Américains soient toujours devant les Français, dans presque tous les domaines. Donc ils sont prêts à prendre ce que vous, vous avez jeté, mais qui a de la valeur, mais à cause de votre logique administrative, votre logique de blocage, parce qu'on se dit, mais il a assez fait, maintenant il s'arrête là, qu'il laisse la place aux autres. Mais non, mais s'il a le talent, pourquoi le bloquer? Les Américains vont prendre. C'est comme, vous savez, c'est la culture qui fait la différence entre les peuples. Ce n'est pas l'intelligence. Les Chinois sont intelligents. Les Japonais sont intelligents. Mais en fonction de la culture, vous allez voir un pays développé, fort ou pas. On va en parler, on va revenir. Je donne cet exemple pour dire comment... Voilà. Un Américain peut, on lui dit, écoute, il y a tel circuit économique qui triple l'argent en 2 mois. Un circuit économique plus ou moins, voilà, plus ou moins rassurant. S'il a 100 000, l'Américain va investir combien? 90 000. Comme ça, il sait que si ça se triple, ça devient 270 000. Le Français, s'il a 100 000, il va investir combien? 10 000, comme ça, il est sûr que si ça se perd, il ne perd pas trop. Il garde les 90 000. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans 3 mois, l'Américain va devenir le patron du Français, parce que lui, il va tripler son argent. C'est ça la réalité, je vous dis, c'est des réalités de culture qui freinent ou pas. C'est des réalités. Aujourd'hui, ça fait longtemps que la colonisation est finie, mais beaucoup de pays noirs ne sont pas indépendants. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas d'esprit de sacrifice. Donc, je ne peux pas mourir en me disant que, après moi, d'autres vont être heureux dans le pays. Comme certains Français sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des familles qui ont laissé leurs garçons aller en guerre parce qu'il fallait sauver la France. Ben, les garçons sont morts. Mais les Français qui sont venus plus tard, ils étaient libres. Mais le noir va dire quoi? Moi, je vais mourir pour que lui profite, non? Donc nous tous, on meurt ensemble. C'est ça. Donc ce qui fait que malgré les richesses du sous-sol, malgré tout ce qu'on veut, ça n'avance pas. Parce que pour les choses dans ce monde, pour que ça avance, il faut qu'il y ait des gens qui payent le prix pour les autres. On a le meilleur exemple. Pour être sauvé, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a donné sa vie pour nous. C'est comme ça que ça marche dans ce monde. Il faut que quelqu'un paye le prix pour les autres. Et vous allez voir qu'en fonction de ces cultures, les pays avancent ou pas. Maintenant, quand on commence à servir Dieu, quand on vient à Christ, au début, on est chaud. Ce qu'a dit le pasteur hier, mais à un moment donné, il y a l'esprit impur qui revient. C'est-à-dire que ta culture va revenir d'une manière rampante, sans que tu te rendes compte. Mais nous, on veut être vigilants. Vous savez, il y a aujourd'hui des spots, des projecteurs qui réagissent au mouvement. Quand quelqu'un s'approche, ça s'allume. Voilà, nous on veut que par ces séminaires, on soit qu'on mette des projecteurs autour de nous. Donc quand la culture va s'approcher, ça s'allume. On dit, ah, j'étais vu. Moi, c'est la Bible. Voilà, bien-aimé, pourquoi on fait ce séminaire? Parce qu'il y a trop de serviteurs de Dieu qui ne vont pas jusqu'au bout. Il y a trop de serviteurs de Dieu qui ne servent pas le Seigneur à 100%. Parce que la culture les a coincés quelque part. Quelque part, la culture les a eus. Et Pierre a failli. Heureusement, c'était un homme humble. Paul l'a réprimandé en public. Et Pierre a compris. Il s'est calmé. Il est revenu à la voie juste. C'est très important, bien-aimé. Pourquoi Jésus est obligé de susciter Paul? Parce qu'il a vu qu'avec les autres juifs, il y avait une difficulté à se débarrasser de la culture. Paul était plus juif qu'eux, mais Paul avait un autre avantage. C'est que Paul était né à l'étranger. Il avait plus ou moins vécu à l'étranger. C'est pourquoi Jésus le prend. Eux, ils étaient juifs, ils n'ont vécu que là. Même si Paul, d'une manière, par la connaissance, par le lien de sang, Paul était plus juif qu'eux, puisque Paul était descendant de la tribu de Benjamin, la tribu qui est restée pure, avec la tribu de Judas. Donc d'une manière sanguine, Paul était plus juif qu'eux, mais Paul avait l'esprit ouvert parce qu'il a été ailleurs. Jésus, voyant que les pierres et les gens n'arrivaient pas à faire la rupture avec l'ancienne vie en tant que juif, il a suscité Paul. Et je peux vous dire que, aujourd'hui, dans certains milieux juifs, nous on voyage en Israël, plus ou moins, les gens ne critiquent plus Jésus. Mais leur ennemi le plus fort, c'est Paul. Parce que quand vous lisez les Écritures, vous vous rendez compte que c'est Paul vraiment qui s'est levé pour dire « Maintenant, c'est Jésus. Avant, c'était Moïse. Maintenant, c'est Jésus. » Jean le dit dans Jean 1, 17. Mais Paul le vit et se bat pour cela. C'est pourquoi beaucoup de gens qui judaïsent ont pour ennemi Paul. Ils finissent par dire, mais Paul, il s'est trompé dans ceci, dans cela. Or, la Bible ne peut pas se tromper. Or, Paul a écrit, il est dans la Bible. Parce que c'est des gens qui... Parce que c'est Paul qui a pu vraiment se débarrasser de la culture juive pour faire les choses à 100%. Et voilà comment la Bible est remplie de ses écrits. Dieu a pu l'utiliser comme il faut, parce qu'il a accepté vraiment... 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc on avait dit ça hier, que la culture va être une sorte de norme de référence. Or, on n'a qu'une seule norme. Or, il n'y a que deux camps. C'est le camp de Dieu ou le camp du monde, ou le camp du diable dans le monde en même temps. Donc quand tu as deux références, tu as deux maîtres. Il n'y a qu'une seule référence, c'est la Bible. Mais la culture va vouloir être une sorte de référence et ça va créer un conflit avec la Bible. Et tu ne peux pas servir Dieu comme il faut. Surtout que cette culture-là a tendance à vouloir être transmise. Donc il y a des gens qui tiennent à la transmettre. Chez nous, ça se passe comme ceci, chez nous, ça se passe comme cela, non. ce qu'on doit transmettre, c'est l'évangile. Et nous lisons Éphésiens 2. Éphésiens 2.
Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Amen. Dieu a préparé des œuvres d'avance. Donc on voit mal comment on viendra apporter des œuvres de la culture dans les choses de Dieu. Puisque Dieu a déjà préparé des œuvres d'avance. Vous savez, hier, un texte a été lu dans Deutéronome 7, où Dieu dit aux enfants d'Israël, « Je ne veux pas vous voir avec les autres peuples, parce qu'ils vont vous contaminer. » Imaginons que nous soyons vivants à l'époque. Dieu allait leur dire aussi, « Attention à ces gens-là qui vont au 108 rue de l'Elbeuf, je ne veux pas. » Si on était à l'époque, il allait dire aussi, « Attention à ces gens-là. » Parce qu'on n'était pas des juifs. Donc aujourd'hui que nous sommes un nouveau peuple, le peuple de Dieu, ben il dit attention, il nous dit attention à tous les autres peuples, et notre peuple d'origine y compris. C'est Éphésiens 2, il est écrit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Le train de ce monde, c'est notre vie d'avant. Donc le commandement que Dieu donne dans Deutéronome 7 au peuple juif pour dire « Je ne veux pas que vous vous mélangez, vous preniez les traditions des autres peuples, la façon de faire », il nous donne le même commandement aujourd'hui, puisque nous sommes aussi son peuple. Donc il nous dit aussi en même temps « Ne prenez pas les traditions des peuples de la terre, vous êtes un peuple à part ». Mais bien aimés, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut qu'on se laisse pousser des ailes pour devenir des anges. Donc on est sur terre, il y a un minimum qu'on gardera toujours. Forcément, déjà la peau qu'on a, voilà, l'espace qu'on partage. Donc il y a des choses qui continueront. Mais on est en train de dire ceci. Notre ligne de conduite va être l'évangile. Mais les choses, par exemple la chemise que je porte, c'est lié à ma culture française d'ici, voilà. Du moment que ça ne contredit pas l'évangile, du moment que ce n'est pas un poids contre l'évangile, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire qu'on puisse dans la culture quelque chose pour fonctionner, non. Les choses simples, naturelles suivront. Nous, on doit s'intéresser à comment faire par l'évangile pour faire fonctionner l'œuvre de Dieu, pour vivre ma vie chrétienne. C'est l'évangile qui me conduit. Mais il y a des choses qui suivront naturellement. On va utiliser des voitures, puisque dans notre culture, on utilise des voitures, on n'utilise pas de chevaux. Voilà, donc, mais ce sont des moyens, mais ce ne sont pas des façons de vivre. C'est des moyens. La chemise, la nourriture, c'est des moyens pour fonctionner en Dieu. Ce n'est pas une façon de vivre. La façon de vivre, ça serait que, bon, dans ma culture, avant de manger, on verse un peu de vin pour les ancêtres au sol. Là, c'est une façon de vivre. Là, tu n'as pas besoin de ça pour ta vie, mais tu le fais pour obéir à une logique de ta culture. Qui t'a dit qu'un ancêtre avait soif? Voilà. Mais tu vas verser un peu de boisson pour l'ancêtre. Non. Ça, c'est la culture. Mais que je mange le camembert, même si j'ai hérité ça des anciens, il n'y a pas de souci, je mange pour me nourrir. Je ne mange pas en esclavage. Le problème serait si on doit m'inviter dans une autre ville pour prêcher et que j'exige qu'au petit déjeuner, il y ait le camembert. Là, ce n'est plus pour me nourrir, mais c'est une façon de vivre, c'est une logique de vie. Donc il faut qu'on fasse la différence. Donc les choses qui sont comme des moyens, il n'y a pas de problème. Mais quand ça devient une logique de vie, c'est là que ça se pose. Et le problème se pose parce que cette logique-là rencontrera la logique de l'évangile un jour et il y aura choc. Voilà. Éphésiens 2 nous dit que le train de ce monde, donc ce qu'on vivait avant, même si tu n'étais pas voleur, même si tu n'étais pas assassin, ce que tu vivais avant était contraire à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que l'Esprit Saint quand il te possède, qui peut te faire faire les choses de Dieu. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 2. L'homme sans Christ est un homme naturel, animal. C'est ce qui est écrit. Donc même si on semblait bon, cette bonté-là était une bonté animale. La vraie bonté vient du Saint-Esprit. Donc, d'où toutes les cultures sont nocives. Dans leur généralité, elles sont dangereuses. Même si elles peuvent comporter des éléments neutres, au positif. Un exemple, faire des études, c'est positif, c'est pas mauvais. Mais la culture elle-même dans l'ensemble a des choses dangereuses qui polluent tout l'ensemble. C'est là qu'on doit être vigilant, c'est pas parce qu'il y a deux ou trois points neutres ou positifs que on doit sous-estimer la dangerosité de la culture. Aujourd'hui, nous allons décrire certaines cultures pour qu'on soit concret, et pour nous permettre de travailler en tenant compte de la culture. Dieu peut nous envoyer en Chine, soyons conscients de la puissance de la culture. Ça agit sur l'éducation, sur la nourriture, sur le travail, sur les coutumes. Voilà, ça agit sur tout ça. Donc, qu'on tienne compte de ça pour travailler. Vous savez, quand on arrive quelque part, il faut savoir quel est l'homme fort de l'endroit. C'est ce que faisait le Paul. Paul, il est arrivé à Éphèse, il a attaqué Diane d'Éphèse. C'est comme ça qu'il a pu gagner Éphèse. Voilà, parce que c'est les gens adoraient Diane d'Éphèse. Donc Dieu va nous envoyer en mission, mais pour qu'on soit efficace, il faut qu'on prenne conscience de la puissance de la culture, afin que nous-mêmes, on ne soit pas un blocage, parce que on est choqué par la culture des autres, mais non seulement cela, mais afin aussi de savoir qui combattre clairement pour sauver les gens. Nous prenons exemple de quelques cultures. Nous commençons par la culture américaine. Nous avons des gens, on va prendre le premier point, nous avons déjà entendu parler du rêve américain. Le rêve américain, c'est quoi? Tu étais en Pologne, tu t'exiles aux États-Unis, et puis 40 ans après, tu deviens ministre, député. C'est ce qu'on appelle le rêve américain. 20 ans après, tu deviens acteur de cinéma riche. C'est ce qu'on appelle le rêve américain. C'est-à-dire que tu t'es réalisé, tu es devenu riche. Donc il y a, dans la culture américaine, la logique de la réalisation personnelle. Donc l'homme fait tout pour devenir quelqu'un. Or, quand on regarde la Bible nous dit quoi? Nous devons mourir pour que Christ vive en nous. C'est le contraire que la Bible dit. Dans Galates 2:20, Paul dit, « Je suis mort, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. » Mais aux États-Unis, on te dira, « Tu dois être un homme fort, tu as un potentiel, tu as ceci. » Ce qui fait que ça augmente l'orgueil de l'homme. L'homme fait tout pour devenir quelqu'un, se réaliser, et il sort des Écritures. Le problème, et c'est ce qui fait vous allez voir la notion de coach, il commence à y en avoir en France. Mais aux États-Unis, c'est répandu. Il y a des coachs qui sont millionnaires. Les coachs, c'est des formes de pasteurs, ils s'occupent de toi, ils te donnent des conseils jusqu'à ce que tu brilles dans ce que tu fais. Parce qu'il y a la logique de la réalisation personnelle. Et cette logique-là est venue dans l'Église. C'est comme ça que commence à parler du potentiel. Dans les églises, les pasteurs sont devenus comme des coachs. Comment t'amener à l'excellence, à devenir quelqu'un d'excellent? Pas quelqu'un proche de Dieu, hein, mais comment faire pour que tu deviennes quelqu'un d'extraordinaire, que tu accomplisses ton rêve? On dit ça dans les choses de Dieu. Ah non! Nos rêves valables ne sont que les rêves en Christ. Et qui va accomplir ça? C'est Dieu lui-même. Quand Dieu a montré des rêves à Joseph, est-ce que Joseph a fait quelque chose pour accomplir ça? Pas du tout. Au contraire, sa situation s'est empirée. Et c'est Dieu lui-même qui a débloqué ça. Et quand, souvenez-vous, on a fait cette étude biblique-là, quand Joseph a voulu faire quelque chose pour s'en sortir, est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. Il a dit au monsieur qui était libéré grâce à son explication de songe, il a dit, quand tu verras le roi, parle-lui de moi. Donc, c'était la première fois que Joseph cherche à s'en sortir. Je crois qu'il était fatigué de vivre souffrance sur souffrance. Son rêve était si lointain. Il a voulu quand même aider Dieu. Mais ça n'a pas marché. Il est écrit quoi? L'homme, quand il est sorti de prison, il a oublié Joseph. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas une déduction, c'est écrit. Il a oublié Joseph. Donc, quand, si Dieu nous inspire, nous donne des rêves, il les réalisera. Parce que ce ne sont pas tes rêves, ce sont ses rêves à lui. Donc, on n'a pas à avoir un coach, je ne sais pas qui va nous amener à nous réaliser, non. Les apôtres, les docteurs, les pasteurs ont été établis. Pourquoi? Pour nous amener à la perfection, nous amener à devenir comme Jésus, mais pas pour nous amener à devenir comme les meilleurs, non, à devenir comme le Seigneur. Et vous allez voir aux États-Unis, c'est ça la logique, dans les choses de Dieu. Chaque pasteur veut avoir la plus grande église, faire les plus grandes conférences, l'orgueil est entré, et Satan réussit ainsi à freiner l'œuvre de Dieu là-bas. Ce n'est pas parce que l'église est de 20 000 personnes que l'œuvre de Dieu prospère. Ça ne prospère pas parce que l'idée qui est là, ce n'est pas l'idée de Dieu. Les choses qui se font là ne sont pas de Dieu. Et un petit exemple encore de l'influence du monde, de la culture sur les choses de Dieu, les méga-churches. Les méga-churches, c'est des églises très grandes aux États-Unis qui reçoivent dans les 10 000, 20 000 personnes. En leur sein, et dans ces églises, il y a tout. Il y a les boutiques de restauration, il y a des cinémas. C'est-à-dire, quand tu viens le matin, tu peux rentrer chez toi le soir, tu as tout fait. Tu as été au culte, tu peux aller dans une librairie, tu peux aller dans une boutique acheter la nourriture, tu peux aller dans une boutique acheter des vêtements. Tu as tout, de sorte que tu es gardé là. Mais ça, c'est à l'image de quoi? C'est à l'image des centres commerciaux. Un Américain fait une étude. Il a vu que les méga-churches ont commencé quelques temps après les centres commerciaux. Avant, ça n'existait pas. Un centre commercial où tu as toutes les boutiques de toutes sortes, avant, ça n'existait pas. Et quand ça a commencé à exister, c'est aux États-Unis. Peu de temps après, les méga-churches ont paru aussi. Avec le même principe. Dans une grosse structure, on met tout. En fait, c'est une copie du monde. Vous allez jusqu'au point où dans la salle de culte, il y a des terminaux où on peut mettre des cartes bancaires pour retirer, pour payer les offrandes. Dans la salle de culte. Vous voyez comment le monde a pollué l'œuvre de Dieu. Une telle œuvre est morte, frère, même s'ils sont 1000, 10 000, c'est mort. Satan est content. Il les a fait échouer, c'est fini. Il passe à quelqu'un d'autre. C'est mort. Un autre problème, par exemple, dans la culture américaine, c'est l'amour de l'argent. C'est les gens qui aiment l'argent le plus dans le monde. Là-bas, ce qui compte, c'est les dollars. C'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il fait que cette culture-là de l'argent est entrée dans l'église. On paye tout. On paye les livres. On paye les enseignements sur Internet. On paye tout. Et un pasteur, par exemple, comme ça, qui a 10 000 membres, il va vous sortir un livre par an, hein, parce qu'il sait que, déjà, les gens de son église vont acheter. Ils vont acheter pour leurs cousins chrétiens. Donc, il peut se retrouver avec 20 000 livres vendus par an. 20 000 livres par, multipliés par, on va faire un calcul simple, par 10 dollars. On prend un prix. Normalement, ça ne coûte pas 10 dollars. Je fais ça juste pour le calcul. Ça coûte plus que ça. 20 fois 10, ça lui fait 200 000 dollars par an. Et ça, c'est côté livre. Côté enseignement sur Internet, il y a des enseignements pour nous, les alphas, 20 dollars. Mais pour les gens qui veulent se rapprocher de son cercle, 200 dollars. Ça, c'est les enseignements sur Internet. Maintenant, les enseignements sur clé USB, il faut aussi les acheter. Les séminaires, c'est payant. À tel point que maintenant, quand les gens doivent donner les offrandes à Dieu pour l'adoration, ils n'ont plus rien. Ils ont tout donné à l'homme, tout acheté. Maintenant, quand il faut donner à Dieu, ils n'ont plus rien du tout. Et vous croyez que ça, c'est une église? Non, c'est déjà mort. Pour Dieu, c'est mort, parce que les gens ne sont même plus capables de l'adorer, lui. C'est l'homme qui a pris la place. C'est comme ça que Satan œuvre. Il va se servir de la culture pour venir récupérer. C'est la logique de l'esprit impur. Il est sorti, mais il va revenir sous une autre manière. Mais il y a des gens qui disent, ah oui, mais pasteur, avec cet argent-là, ils font des chaînes satellitaires. Et ce sont ces chaînes-là que les Iraniens écoutent et se convertissent. Les Indiens écoutent et se convertissent. Les gens vous diront ça, et quand ils font des campagnes en Inde, il y a des conversions. Mais bien aimé, ça ne justifie pas qu'on sorte de la parole de Dieu pour faire tout ça. C'est comme si vous me disiez d'aller faire des fétiches pour que les gens se convertissent. C'est la même chose. C'est contraire à ce qui est prêché. On prêche Jésus Tout-Puissant, on prêche Dieu Tout-Puissant et puis on pille les gens financièrement. C'est contraire à cela. Si Dieu est Tout-Puissant, il va susciter lui-même les satellites. Il va susciter l'argent pour faire les chaînes, pour qu'on touche l'humanité. Ça ne justifie pas. Vous allez donner, oui, il y a des gens même qui disent, mais si ce n'était pas une telle chaîne, moi je ne me serais pas converti. Mais donc ça justifie que les gens se corrompent pour que toi tu te convertisses. Non, bien-aimé. Vous vous souvenez de notre frère Paul? Il y a une dame dans Actes des Apôtres 16 qui le suivait et qui disait quoi? Ceci, il était avec son collaborateur. La dame disait quoi? Ceux-ci sont de véritables serviteurs de Dieu. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Il a dit, il a fait taire cette femme, il a chassé l'esprit qui parlait. Il ne s'est pas dit, ah, même le démon parle de moi, comme ça ils vont comprendre qui je suis. Non, nous n'avons pas à nous associer aux forces des ténèbres ou aux manières des ténèbres ou du monde pour faire l'œuvre de Dieu. C'est vrai, on se moque de nous, on dit qu'on n'a pas beaucoup de nombres, on n'a pas beaucoup d'argent. Avec notre logique, on n'aura rien, ce n'est pas grave. Nous, on sait que Dieu va agir. On attend son temps. Il y a une saison pour tout. On attend son temps. Entre-temps, nous restons dans la vérité. Nous préférons mourir dans la vérité plutôt que nous compromettre sous prétexte qu'on va produire des choses. Non. Parce que nous connaissons la fin de tous ces gens-là. Si encore on avait 14 ans, on aurait compris. Mais on a un âge où on a vu la fin de tous ceux qui ont fait toutes ces choses-là. On a vu comment ils ont fini. Parce que dans ces affaires-là, bien-aimés, on n'en finit pas avec l'argent. Hein. Au début, on croit que c'est beaucoup. Mais les dépenses, tu as un jet. Tu dois payer le pilote. Tu dois payer l'entretien. Mais tu vas continuer toujours à demander l'argent. Benny Hinn, j'attaque ça parce qu'il faut attaquer. Benny Hinn avait promis de construire une nouvelle Jérusalem aux États-Unis. Il a pris l'argent des gens. Tout est passé dans les hôtels 5 étoiles. Il n'a jamais construit ça. C'est la honte. Moi, je m'imagine, tu es fils de Béni, il nous voit des choses comme ça. C'est la honte. Mais pourquoi ils en arrivent là? Parce qu'après, la soif de l'argent ne finit jamais. La soif du bing-bing ne finit jamais. Ils finissent tous mal. Il ne faut pas suivre ça. Ça, c'est l'influence de la culture. Il y a des bons côtés, comme on a dit tout à l'heure, le côté pratique, le côté prendre des risques. On en dit que ce qu'on ne vient pas, mais ces côtés-là rejoignent la Bible. La Bible nous exhorte à prendre des risques. La Bible nous exhorte à marcher par la foi. C'est vrai que l'Américain, c'est beaucoup plus facile pour lui. Quand il s'agit de mettre foi en Dieu, il est rapide. Mais gloire à Dieu! Mettre foi en Dieu, c'est bien. Mais pas mettre foi en Dieu dans les bêtises. Si c'est pour mettre foi en Dieu, pour avancer, c'est bien. Mais ça, la Bible nous le dit déjà qu'il faut mettre foi en Dieu. Nous n'avons pas besoin de prendre ça dans la culture. La Bible nous le dit. Nous prenons un exemple de culture. En Afrique centrale, par exemple, donc si on a des revolvers, on ne les sort pas, on les garde. Donc on n'a pas pour but d'humilier les gens. Le but, c'est de dire la vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité nous rendra libres. Il y a l'esprit d'inachèvement dans la culture. Les gens commencent à construire des grandes maisons, ça ne finit jamais. Donc la maison, vous circulez là, vous voyez, une grosse bâtisse, mais il n'y a pas de peinture. Mais on voit bien que ça va à l'encontre des Écritures, puisque Jésus dit avant de construire, il faut calculer la dépense. Là, la personne vient, il commence, mais il ne finit jamais. Comment être étonné de voir beaucoup de chrétiens avec qui on a commencé, qui ont lâché en cours de route? Vous allez me dire, mais ça se retrouve partout, des gens qui lâchent en cours de route. Mais oui, mais particulièrement dans cette zone-là, il y a beaucoup. Des gens qui commencent dans un élan et qui lâchent en cours de route parce qu'il y a l'esprit d'inachèvement qui les a rattrapés. Donc, ce ne sont pas des gens qui vont dire, je vais aller comme ça jusqu'au bout. C'est parce que la culture les amène à une sorte de lassitude. Ah, on laisse comme ça. Esprit d'inachèvement qui dénote un manque de sérieux dans ce qu'on fait. Mais c'est la culture. Après, on retrouve ça dans les choses de Dieu. Vous allez voir un autre problème, c'est le problème de planification. Dans la culture des Noirs en général et des Bantous en particulier, problème de planification. On ne planifie pas les choses. C'est toujours à court terme. Les gens font les choses à court terme. Donc pour eux, c'est comme si quand tu construis pas à pas une œuvre, c'est comme si tu prenais du retard. Il faut tout de suite briller, tout de suite faire quelque chose d'explosif. La planification n'existe pas. Où tu commences par une vraie fondation, dans le mur, et tu prépares déjà de l'argent de côté pour les toits. Tout. Cette planification-là n'existe pas. Et ça influe sur le travail dans l'œuvre de Dieu. C'est ce qui fait que les gens ne sont pas persévérants avec le Seigneur pour construire quelque chose et aller jusqu'au bout. En cours de route, ils se disent, mais je fais trop. Mais il n'y a toujours rien. Qu'est-ce qui décide de passer de l'autre côté? Compromis sur compromis. Parce qu'ils n'ont pas la logique de se dire, je construis pour que dans 30 ans, mes enfants, mes petits-enfants passent par ce pont-là. Non, non, non. Lui, il veut construire le pont et lui-même utiliser le pont. L'idée de planification n'existe pas. Ben, c'est des choses à combattre en tant que serviteur de Dieu. Quand vous êtes dans ces régions-là, amenez les gens à apprendre à planifier, à construire. Les gens veulent la rapidité du magicien. Ils vont te consulter et directement ils ont la réponse et c'est bon. Mais quand tu vas leur dire, ben, on va mettre foi en Dieu, on va prier, Dieu est bon, il va agir, ah, c'est une réponse vague. Parce que ça demande une construction. Mais il veut que tu dises, ta maladie vient de Satan, de ta tante qui veut te tuer. Ah, là, il est content. Mais si tu lui dis, ah, tu es malade, bon, on va prier que Dieu agisse, que tu sois guéri. Ah, mais là, le pasteur est flou. Mais il veut quelque chose de rapide. Parce que prier comme ça, ça demande, ça suppose un certain temps. Or, Dieu peut agir à l'instant même. Mais ça suppose que j'ai foi aujourd'hui, foi demain, foi après-demain, foi. Lui, il veut, non, lui, c'est la foi instantanée en ce moment même là. Et c'est qu'en ce moment que ça doit se faire. Si ça ne se fait pas en ce moment, il y a un découragement. 10 jours après, tu vas apprendre qu'il est parti consulter un féticheur. Parce qu'ils ont un problème de construction, de planifier l'avenir. Non. Il faut que ça se fasse tout de suite. Et ça freine l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils n'accepteront pas de commencer dans la vérité et de bâtir pas à pas. Avant un moment, les gens étaient fatigués avec le Seigneur. Mais quand est-ce qu'il va devenir roi? Or, le Seigneur était en train de construire quelque chose. Il savait que les gens qui allaient faire le plus de bruit, c'était ses disciples, pas lui-même. Il les construisait. À un moment, ses disciples étaient fatigués. Mais quand est-ce qu'il va devenir roi? Nous, on attend ce moment-là. Mais lui, il savait ce qu'il faisait. C'était une construction. Dans l'œuvre de Dieu, il faut accepter la construction. Et le diable va te dire, non, ça ne marche pas. N'écoute pas. Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole? Il est en train de construire. Accepte qu'il construise. Et tu verras le fruit, un fruit stable qui va durer. Alors que les choses d'agitation, ça s'allume comme des étoiles filantes et ça s'éteint. Pas d'esprit de planification. On va me dire, oui, mais il n'y a pas que eux, il y a les entreprises en France qui ferment tous les jours, oui, mais nous, on parle de gens qu'on a côtoyés. Le monsieur, il commence une entreprise de livraison, une entreprise de sécurité. Dès qu'on le paye 70 000 euros, au lieu de comprendre qu'il y a des ouvriers à payer, il y a la voiture, en comptabilité, on appelle ça des provisions. Donc vous mettez des provisions pour la voiture, parce que la voiture, le fourgon, à un moment donné, ça va se fatiguer, il faut renouveler. Donc dans ta comptabilité, tu prévois de mettre chaque mois quelque chose pour le futur fourgon. Le monsieur, lui, quand il reçoit les 70 000, se dit, mais je suis devenu riche. Mais ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de l'entreprise. Tu dois planifier la paye des ouvriers. Tu dois planifier les provisions, le carburant. Mais comme il n'y a pas la planification, il prend l'argent, allez au jour le jour. Un an après, vous apprenez que l'entreprise a fermé. Parce qu'il croyait que l'argent, là, c'était à lui. Problème de planification. On m'a parlé d'une église qui, autrefois, ils étaient à 5 quand ça avait commencé. Admettons, c'est le frère Gaston qui gardait les petites offrandes qu'il faisait. Et quelques mois plus tard, dans une petite réunion, bon, le nombre a augmenté un tout petit peu de chrétiens. On demande les comptes au frère Gaston. Il dit, à l'époque c'était les francs, il y a 30 000 francs. Il y a un qui dit, il faut qu'on trouve un trésorier. Oh. Mais quand ça a commencé, il n'y avait rien, c'est Gaston qui gardait l'argent. Dès qu'on a dit que c'est 30 000 francs, 5 000 euros, il faut un trésorier. Mais le trésorier, il y a déjà celui qui garde. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est dit que c'est beaucoup. Mais il s'est dit que c'est beaucoup parce qu'il n'a pas de vision. Il n'a pas de planification. Parce que si vraiment Dieu t'appelle, Dieu nous appelle pour sauver des pays, des villes. Qu'est-ce que c'est 30 000 francs pour sauver un pays, une ville? Un vrai serviteur doit planifier normalement quand Dieu l'appelle. Une imprimerie, une chaîne de télé, une chaîne de radio pour annoncer l'évangile. Il doit penser à tout ça. Si, ça dépend. Donc, du moins une église, peut-être vous allez dire, mais un individu c'est difficile, mais une église doit penser à une imprimerie pour sortir des tracts d'évangélisation, doit penser à une chaîne de radio pour annoncer l'évangile. Mais, et donc, pour, doit penser à une chaîne de télévision pour annoncer l'évangile. Doit penser à des missions, bâtir à gauche, à droite. Mais c'est quoi 5000 euros devant tout ça? Rien du tout. Mais comme la personne n'a pas de vision, n'a pas de planification, il a vu que c'était beaucoup. Et c'est comme ça que ça, l'église s'est morte, à cause de 5000 euros. Parce que l'autre aussi a dit, mais c'est moi qui gardais déjà. Bien-aimé, non, revenons à l'évangile. Revenons à la Bible. On voit surtout, excusez-moi, dans les milieux congolais, l'amour pour le pouvoir dans les choses de Dieu. Là, je précise, les Congolais de Kinshasa, ils aiment prêcher, ils aiment parler de Dieu, mais en public. Or, les rues sont remplies. Allez voir, discutez même avec un nouveau converti congolais. Il va vous faire comprendre que Dieu l'appelle. Mais peut-être Dieu t'appelle à balayer. Hein? Pourquoi faut seulement penser à prendre le micro? Mais c'est comme ça. Mais c'est la culture. Mais cette culture est due à quoi? Au fait qu'il y a eu un réveil dans les années 80. Pendant ce réveil, c'était le groupe de prière. Et dans ce groupe de prière, Dieu agissait tellement puissamment que la prière, même d'un chrétien, il suffisait quand le chrétien priait et que tu étais un païen, que tu étais là, tu étais touché. Donc tout le monde dégageait une puissance divine. Ça a donné l'impression que tout le monde pouvait être pasteur, tout le monde pouvait prêcher, enseigner, mais c'est faux. C'est l'action de Dieu à un moment donné, mais ça ne veut pas dire que c'est la règle. La règle se trouve dans la Bible. Dans ces groupes de prière, il n'y avait pas d'autorité. On venait là, on se réunissait, on priait. Dieu agissait effectivement. Il n'y a pas de problème. Mais c'est devenu une mode dans le pays. Ils sont passés d'un extrême à l'autre. L'autre extrême, c'est quoi? Il faut faire 5 ans d'études pour être pasteur, 10 ans, 8 ans, tout ça. Mais là, l'autre extrême, ils sont passés à l'extrême selon lequel on n'a pas besoin d'étudier la Bible, l'Esprit nous utilise. Ah non! On doit étudier la Bible. On doit étudier la Bible. Il y a des mots, si on ne les a pas étudiés, travaillés, on va dire des bêtises dans la Bible. Et donc, à partir de là, tout le monde se croit prédicateur. Ou en tout cas, joue un rôle prépondérant. Ou régulièrement prend le micro. Un jour, il y a un ami qui me disait, le jour où Dieu permettra que je témoigne. Oh, moi, je me dis, mais le jour où Dieu permettra que tu témoignes. Mais tu me témoignes déjà là, non? Donc quand lui, il dit, le jour où Dieu permettra que je témoigne, il veut dire, prends le micro, parler à un public. Donc, c'est-à-dire que c'est une maladie. Donc quand il me témoigne, là, ce n'est pas un témoignage. Ah, le jour que Dieu permettra que je témoigne. Oh, mais non, mais on est là, témoigne, nous. Il y a des petites filles de l'église qui sont venues me voir pour dire, pasteur, on a préparé un chant, on veut chanter ça sur la scène. Moi, je dis, non, non, vous allez chanter dans mon bureau. Nous, on attaque. Non, vous savez, dans les choses de Dieu, hein, moi, je ne fais pas de différence. Petit, 3 ans, 4 ans. Moi, je suis vigilant. Parce qu'on a à combattre les esprits. On n'a pas à combattre des enfants ou bien des adultes. C'est des esprits. Elles sont venues me voir toutes gentilles. Mais nous, on a préparé un chant, on veut chanter sur la scène. Moi, je dis, ah bon? Non, 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 ça sera au bureau. Et une d'entre elles me dit, Ah ben, il y aura les autres qui viendront. Moi, je dis, non, 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 seulement moi, vous allez chanter devant moi, c'est tout. Ah oui, avec la vérité, moi, je n'ai pas de pitié. Je ne suis pas parfait, mais c'est la vérité qui sauve. Et je sais qu'avec la vérité, moi, si je commence à m'écarter, puisque vous avez déjà reçu la vérité, vous allez me ramener. Donc, très tôt, je les ai bloqués. Ça sera au bureau. J'ai dit, là, ça attend, je vais dire, c'est comment? Voilà, donc, rendez-vous au bureau, je serai le seul spectateur. C'est comme ça, bien-aimé. Et dans ce pays-là, tout le monde veut prêcher. Et si tu le vois qu'il ne veut pas prêcher, bien sûr, bien-aimé, quand je dis ces choses-là, il y a toujours des exceptions. On n'est pas en train de dire c'est une règle à 100%, mais c'est la généralité. Et souvent, quand la personne ne veut pas encore prêcher, c'est qu'il a encore beaucoup de péchés et il ne veut pas se hasarder à parler. Mais même quand il a beaucoup de péchés, il va dire, je veux témoigner. Il va changer de langage, il va dire, je veux témoigner. Je veux témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Mais non, mais donc, voilà. Parce que c'est que s'il dit prêcher, on va dire, mais toi, tu es encore dans... Voilà. Je veux témoigner. Mais il faut qu'il tienne le micro. Je le dis pourquoi ? Peut-être Dieu va t'appeler quelque part. Mais donc, il faut que tu sois vigilant avec tout ce qu'on dit là. Ah oui ? C'est important. Il y a beaucoup de choses à dire, bien-aimé. Il y a aussi à dénoncer la légèreté dans ce milieu-là d'Afrique centrale. Les gens sont légers. Vous dites le culte, c'est à 10 heures. Ils vont venir à 11 heures. Vous allez me dire, ah oui, mais ça, c'est pas la faute du pasteur. Non, mais le pasteur lui-même, il vient à 11 heures. Lui-même, il vient à 11 heures parce qu'il s'est dit, les gens vont venir à 11 heures. On a dit 10 heures pour qu'ils viennent à 11 heures. Mais non, ça, c'est un manque de sérieux. Alors, on le dit à l'avance pour que le jour où ça va t'arriver, que tu ne t'énerves pas. Dieu va t'envoyer là-bas prêcher. Ben, tu sais que, ah, ici c'est comme ça. Donc, parce que sinon tu ne feras pas l'œuvre de Dieu. Tu vas commencer par la colère. Ça ne servira à rien. Donc il faut comprendre comment les cultures fonctionnent. Mais nous combattons cela. Voilà. Le jour où toi tu es appelé, quand c'est 10 heures, tu es là à 10 heures. Il n'y a personne, tu commences. On n'attend personne. On commence. On le dit, bien-aimé, ce n'est pas pour critiquer, c'est pour changer et changer les autres. Et puis on revient à notre culture maternelle, la France maintenant. Donc on a déjà calmé les revolvers. Le problème qu'on retrouve dans la France, c'est quoi ? C'est le refus de vouloir avancer. C'est toujours la logique du conservatisme. Les choses doivent être faites comme ça a toujours été fait. Ça doit être contrôlé. D'où la puissance de l'administration. Parce que tout est... Donc si tu n'as pas de papiers, de diplômes, tu ne fais pas quelque chose. À l'inverse, si tu as des diplômes, même quand tu ne connais rien du tout, ce n'est pas grave, tu as le diplôme. Comment une nation peut se développer comme ça? Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la valeur qui compte, mais c'est le papier. Puisque l'administration contrôle, au moins on se dit, on a vu le diplôme, donc on contrôle. Mais ce qu'il y a dans sa tête, on ne contrôle pas. Mais c'est le diplôme. Ça donne une certaine sécurité. L'autre est toujours un peu dangereux. Il faut faire attention. Ce qui fait que tu peux faire 10 ans. Tu ne connais pas ton voisin de palier. Ou ne vous êtes jamais vu vraiment pour discuter. Parce qu'on se méfie de l'autre. On veut contrôler les choses. Tout doit être sous contrôle. Et tout ça entre dans quoi? Ça entre dans l'évangile. Ce qui fait que dès que le culte finit, chacun rentre chez lui. Il n'y a pas la communion fraternelle. Moi, je me souviens même à une époque, il y a des gens qui quittaient le culte à 11h45 parce qu'ils doivent aller manger à midi. Parce que la tradition, donc on l'attend là-bas midi, il faut être là, il faut manger à midi. Tout doit être contrôlé, toi, tout doit être fait d'une manière figée. Pas d'évolution. Il faut que ça soit figé sous contrôle. Et d'où la puissance de l'administration. Et ce qui fait que l'Église en France, malgré la puissance du Saint-Esprit, n'a pas connu l'essor que ça devait connaître. Nous connaissons ce que Douglas Scott a fait dans les années 40-50, ici, un missionnaire anglais, l'église qu'on appelle les ADD. Dieu avait agi puissamment à cette saison-là. Mais le résultat aujourd'hui, c'est quoi? C'est une église bien administrative où, en fonction de ton diplôme, on te donne plus ou moins une grande église. Quand tu as Bac plus 3, c'est une église de tel nombre de membres. Quand tu as Bac plus 5, c'est une église d'un peu plus de nombre de membres. Donc l'église est devenue administrative parce que l'esprit du pays a pris le dessus sur l'église. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un mouvement qui a environ 800 000 adhérents manque de chaînes de télévision, manque de chaînes de radio? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Parce que quand on voudra faire ça, il va y avoir tellement de complications entre eux administratives que ça ne va pas se faire. Il n'y a pas la logique d'avancer. Il y a la logique du contrôle. Gérer ce qu'il y a. Ça vient du pays. J'ai suivi hier une histoire sur l'Islande. En 2008, l'Islande était un pays déclaré en faillite. Et aujourd'hui, l'Islande, c'est le pays où il y a 3% de chômage. 3%. Donc, record mondial. 4% de croissance. Tout va bien. Et ils expliquaient que, parce que les Islandais ont accepté d'endurer des sacrifices que les autres peuples n'auraient pas acceptés. Comme je vous ai dit, beaucoup de choses sont liées à la culture, le développement, tout ça, c'est lié à la culture. Aujourd'hui, quand on parle des Allemands, c'est leur culture. Le sérieux, la volonté de souffrir pour l'avenir du pays, tout ça, c'est ce qui fait qu'ils sont en avant. Ce n'est pas l'intelligence. Tous les peuples sont intelligents, mais la culture influe. Les Islandais aujourd'hui sont bien parce qu'ils ont une culture de se sacrifier pour le pays, pour l'autre. Et aujourd'hui, ils sont bien. Après avoir été déclarés en faillite en 2008, les gens disent, mais comment si rapidement? Ils donnent des explications. Ils disent, ces sacrifices-là, ça aurait pas été accepté dans les autres peuples. Et moi, je dis, c'est vrai en France qui va accepter d'être... Déjà, quand on nous annonce, quand les allocations ont baissé d'un euro, on nous annonce. Les allocations familiales ont baissé d'un euro. On annonce ça à la télé. Vous imaginez, si ça baisse de 5 euros, c'est la révolution. Donc, le pays est bloqué. L'administration bloque. Et cette logique-là est entrée dans l'église. C'est bloqué. Les gens n'avancent pas, ils veulent gérer Dieu. Bon, Dieu, je lui consacre de 10h à 13h après, j'ai telle chose à faire, tout est planifié. Si tu bouleverses ça, c'est des problèmes. Mais comment, qui peut contrôler Dieu? C'est Dieu qui est le maître. Qui peut contrôler Dieu? Autre maladie, la sécurité sociale. Est-ce que c'est à 100% mauvais? Non. Mais c'est mauvais quand même, parce que ça a amené les gens à nier Dieu et à se confier en l'homme. Mais est-ce que ça ne fait pas de bonnes choses? Ça fait de bonnes choses. Mais ça a pris la place de Dieu. De sorte que même les chrétiens, avant d'aller en mission, il faut qu'on leur garantisse leur avenir là-bas en mission, par l'État, par les humains. Parce qu'ils sont habitués à la sécurité sociale française. Si on ne leur garantit pas, ils ne vont pas. Or, la Bible nous montre quoi? Jésus a envoyé des missionnaires. Il leur a dit, allez, mains vides. Il leur a même dit, même ce qui est à vous, ne prenez pas. C'est fort, ça. Qu'on nous dise de ne pas demander aux autres, d'accord, mais même ce qui est à toi, ne prends pas. Va comme ça. L'ouvrier mérite son salaire. Dieu s'occupera de vous, vous êtes ses ouvriers. Mais quel Français va accepter ça? Hein? Donc il va s'assurer que là-bas, connaît déjà l'hôpital où il va aller là-bas en cas de maladie, comment ça va se passer en cas de ceci, cela. Donc toute la sécurité sociale doit être bien étudiée. Ça freine l'évangile. Parce que Dieu n'obéit pas à ces règles-là. Il a ces règles qui sont dans la Bible. La gastronomie, je pense qu'on m'attendait là-dessus. Hein. Parce que là où on appelle quelqu'un maître fromager, donc quelqu'un qui a fait des études pour manger le fromage. Moi, sincèrement, ça me dépasse toujours cette histoire-là. À la télé, le monsieur, on l'interviewait et c'était écrit en dessous « maître fromager ». Bien aimé, du fromage. Maintenant, il y a des gens qui disent, mais non, mais là, quelque part, c'est parce que c'est pas ta culture. Non, c'est pas ça. C'est une histoire d'exagération. Voilà. Qu'on aime le fromage, on n'a pas de problème. Maintenant, qu'on en fasse des études à l'université, je ne sais pas où, qu'on ait le titre de maître fromager. Mais c'est ça qui explique que 11h45, à l'époque, on a commencé l'église ici. 11h45, tchac, la personne se lève. Je crois qu'il a laissé le rôti, ça devait courir là-bas à midi. Comme il y a les fours qui se programment. Donc il a laissé. 11h45, tchac. Ah, mais bien-aimés, moi j'ai fait 4 mois. Vous imaginez, 4 mois, je prêchais la même chose. Mais je changeais de titre. 100% pour Jésus, c'était ma prédication. 4 mois. Mais je changeais, j'amenais un nouveau titre, mais le contenu était toujours le même. Donc, ils ont arrêté de sortir à 11h45. Ils sont restés affamés jusqu'au bout. Ah oui, oui. 100% pour Jésus. C'est Jésus qui pilote. Ce n'est pas le midi. Bien-aimé. Est-ce que c'est la montre qui doit te conduire ou ton ventre? Et parfois, la parole t'a rempli, mais quand tu regardes la montre, oh, chef, j'obéis, tu te lèves. Oh, mais bien. Ton ventre est rempli par la parole, pourquoi tu te lèves? Non, ça c'est le manger avec tout un rituel qui a pris le pays. On doit sortir de cet esclavage-là. Vous savez, il y a des conséquences graves. Vous savez, certaines choses que moi je dis, il y en a qui ne vivent pas ça parce qu'ils ne font pas le travail que nous faisons, d'aller en mission faire des choses. Quand nous allons dans certaines missions et qu'il y a des âmes à sauver, par exemple, on est dans une maison, il y a des âmes qu'on a invitées à sauver, mais on doit interrompre parce que c'est midi. Les propriétaires ont invité des âmes. Mais non, on est en train de travailler les âmes pour qu'ils donnent leur vie à Christ. Mais on doit interrompre parce qu'on doit manger à midi. Et pire encore, il ne faut pas que ces gens-là soient là parce que le nombre de cuisses de poulet ne correspond pas. Ah, alors, bien-aimé, non. Moi, je dis ça, c'est un frein à l'évangile. Moi, je préfère ne pas manger que quelqu'un se convertisse. Vous savez, la conversion, c'est toute une vie. Quelqu'un va aller au paradis. Ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que ça a à voir avec un repas? Mais maintenant, on a dit, oui, il faut bien qu'on mange. On est d'accord. Mais la priorité, c'est l'évangile. C'est la priorité. Maintenant, si tu ne commences pas déjà à combattre la culture au niveau faible de ta vie personnelle, quand ça va arriver ces moments-là, tu crois que tu vas avoir la réaction de dire l'évangile d'abord, c'est faux. Ça doit commencer déjà soi-même, tu sors de tout ça. Tu vis tel que ça vient avec Jésus. Ça doit commencer par toi-même. N'attends pas d'être pasteur, n'attends pas d'être sur le champ de mission pour changer. C'est en toi-même qu'il doit y avoir d'abord un changement. Quand Hudson Taylor est parti en Chine, il est parti sans argent. Donc ça a commencé d'abord en lui. Puisque après, on a vu que quand il est arrivé en Chine, il s'est habillé comme les Chinois. Il a laissé la barbe pousser comme les Chinois. Mais si déjà, il n'avait pas pris la décision d'y aller sans argent, il n'aurait pas non plus la facilité de s'habiller comme les Chinois. Il n'aurait pas la facilité d'apprendre le chinois. Il a déjà commencé un travail personnel à suivre Christ. Or, tous les missionnaires anglais de l'époque de Hudson Taylor, quand ils allaient en Chine, c'était toujours sous l'encadrement d'une organisation. C'est une organisation qui t'envoie, tu as un logement qui t'attend en Chine côtière, ils n'entraient pas à l'intérieur de la Chine, ils restaient sur la côte. Il y a un logement qui t'attend, une organisation qui t'attend, où tu vas vivre et tu vas t'habiller comme les Anglais, costume, gilet, à 16 heures, un petit thé, mais le travail n'avance pas, l'évangile n'avance pas, les Chinois ne se convertissent pas. Hudson Taylor est parti sans organisation. Dieu lui a mis à cœur d'aller sauver les Chinois. Il est parti comme ça. Déjà là, il a été libéré de la culture. Il arrive sur place, tout le monde habillé comme des Anglais en Chine. Lui, il s'habille comme un Chinois. Il entre à l'intérieur de la Chine. Et il apprend le Chinois. Il laisse pousser la barbe comme les Chinois. Et quand il arrivait quelque part, les Chinois étaient souriants de le voir. Ils étaient contents. Et quand ils parlaient leur langue, ils étaient touchés. Et petit à petit, les Chinois ont commencé à se convertir. Un seul homme a mieux fait que beaucoup d'organisations avec de grands bâtiments. Un homme rempli du Saint-Esprit, un homme libéré de sa culture. C'est des choses réelles, bien-aimés. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur les cultures. À nous de distinguer ça et de savoir faire attention, faire un examen personnel, voir non, je dois être libéré de ceci ou de cela. Quand tu vas dans une réunion de famille, tu vas comme missionnaire, tu ne vas pas comme membre de la famille, tu vas comme missionnaire de Jésus. Parce que tu es devenu une nouvelle personne. On ne demande pas de fuir la famille. Tu vas là-bas, mais comme missionnaire de Jésus. C'est ça, bien-aimé. Tout doit changer. Ce n'est pas moi qui le dis, 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On ne demande pas de devenir des ermites. On va dans une île, dans un couvent, on se cache du monde. Non, on est dans le monde. Il y a des choses, comme on a dit, des moyens, ça continue, naturel, ça continue. On continue à mettre des chaussures, on continue à mettre des chemises, mais on vit selon la logique de la Bible. Et quand on se retrouve dans des histoires d'habitude, nous, on y insère Jésus. On met le Seigneur dedans. Réunion de famille, tu viens pour parler du Seigneur. Jusqu'à ce qu'ils vont commencer à te cacher les dates de la réunion. C'est ça. Et pour clôturer, je vais citer, voilà, vous allez voir en Chine, au Japon, les gens aiment souffrir parce qu'ils sont, un peu contaminés par le bouddhisme. Les religions orientales, c'est des religions qui prêchent la proximité à Dieu par la souffrance. Ce qui fait que même quand les Chinois ou les Japonais deviennent chrétiens, ils vont entrer dans les œuvres par les jeûnes, voilà, de 70 jours, de 40 jours. Ils vont faire des choses pour souffrir, mais ce n'est pas forcément le Saint-Esprit. Donc eux aussi, ils ont à se battre contre cela. Comprendre que non, avec le Saint-Esprit, c'est la grâce. Si le Saint-Esprit m'amène à jeûner, c'est écrit dans Matthieu 4, dans Luc 4, quand Jésus-Christ est parti dans le désert, c'est le Saint-Esprit qui l'a entraîné là-bas pour jeûner 40 jours. Ce n'est pas un truc spirituel, un exercice spirituel. C'est le Saint-Esprit qui nous entraîne. C'est ça la nouvelle vie. Mais tu vas voir, vous allez voir les Chinois, les Japonais, ils vont le faire. Les Coréens, ils vont le faire comme un système, comme un moyen. On a vu par exemple la grande erreur de Yonggi Cho en faisant le livre La quatrième dimension. C'est des notions bouddhistes qu'il a ramenées dans les choses de Dieu. Dans le bouddhisme, on est là à se concentrer et voir des dimensions. Et Yonggi Cho a fini par faire un livre chrétien, La quatrième dimension. Donc influencé sans se rendre compte peut-être par sa religion d'avant. Bien, mais la culture revient toujours. Il faut faire attention, être vigilant à tout moment. Vous allez partir dans les régions de l'Est. Là-bas, c'est la vodka qui est le maître absolu. Pour se réchauffer, on prend un peu de vodka. Tu vas prendre 3 verres parce qu'il fait froid. Bien, mais aujourd'hui, on a des chauffages. Mais eux, ils ont toujours froid alors qu'il y a des appareils qui chauffent dans les maisons. En réalité, c'est la boisson qui a pris goût en eux. Maintenant, le problème, vous dites, mais ça c'est le païen. Non, dans les milieux chrétiens aussi. Donc quand vous allez dans des missions là-bas, vous allez vivre ça. Ah oui? C'est comme ça que beaucoup de pasteurs sont devenus alcooliques et beaucoup de choses comme ça. Parce que la culture veut que pour se réchauffer, un peu de vodka. Mais toi, tu es chrétien, tu dis, moi je veux me réchauffer avec le thé. Voilà. Ah oui, mais toi tu es une femme, mais ce n'est pas grave. L'essentiel c'est que je sois avec Jésus. Donc chaque peuple a des choses qui finissent par étouffer l'évangile dans la culture. Nous devons être attentifs. Vraiment que le Seigneur nous amène à être vigilants, à ne pas tomber dans le piège dans lequel Pierre est tombé, même s'il s'est repris. Restons vigilants, prêchons l'évangile, rien que l'évangile, en esprit, en vérité, avec comme modèle Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ qui était Dieu, mais qui est venu, qui a quitté le ciel pour vivre avec nous. Il a supporté de quitter la culture céleste pour vivre avec nous, manger comme nous, vivre comme nous. C'est que quelque part, il ne s'est pas accroché, c'est ce qui est écrit dans Philippiens 2, il ne s'est pas accroché à sa nature céleste. Il a voulu vivre comme nous. Et beaucoup ne peuvent pas être missionnaires. Parce qu'ils sont incapables de vivre comme les gens d'une autre culture. Ils vont s'accrocher à leur culture et ils ne peuvent plus être missionnaires. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas servir Dieu. Or, nous sommes à une époque où Dieu veut susciter beaucoup de missionnaires. Vous savez, les missions ont connu un frein. Vous savez à cause de quoi? À cause des méga-churches. Depuis un certain nombre d'années, les églises cherchent à s'agrandir plutôt leur salle, faire tout dans une salle. Et on a négligé les missions. Dieu met un esprit missionnaire à notre époque. Mais la culture risque d'être un frein. Pour être missionnaire, il faut être libéré. Faites comme un ange. Tu es au ciel, allez, on t'envoie sur la terre. Libéré de toute culture, tu viens parler de Dieu. Dieu cherche les missionnaires. Et beaucoup sont liés par les choses venant de la culture et ils n'arrivent pas à répondre à l'appel de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides à marcher selon les Écritures, telles que c'est écrit, celui qui est en Christ est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous voulons expérimenter cela et être vainqueurs de la culture par la vérité jusqu'au bout, jusqu'à la mort, parce qu'on a bien vu que ça pouvait revenir même 30 ans après, afin que nous accomplissions pleinement ta volonté dans nos vies, pleinement la mission pour laquelle tu nous as sauvés. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous laissons la place aux questions. N'hésitons pas à poser des questions, c'est important. Nous voulons construire des missionnaires. Et n'hésitez pas aussi à poser des questions que vous trouvez importantes, même si vous avez déjà presque la réponse. Mais il y a des gens aussi qui suivent par Internet qui auraient bien voulu poser cette question, mais ils n'ont pas pu vous poser à leur place. Voilà, donc nous soyons libres. Le Saint-Esprit nous répondra.
Alors, il y a déjà 6 questions Internet. Donc, la première... Puisque les cultures, notamment africaines, il y a la dot, étant devenus chrétiens, est-ce que nous devons annuler la dot? Alors que tout en sachant qu'Abraham lui-même, il avait donné la dot à ses beaux-parents.
Donc la personne a répondu elle-même à la question. Donc nous, Abraham parle, la Bible parle de la dot. Voilà, c'est pas. Nous, on doit prendre les choses d'une manière biblique. On dit bon, puisque c'est dans la Bible, nous allons prier le Seigneur qui nous conduise à faire les choses d'une manière biblique. Par exemple, dans ces histoires de dot, il y a des gens qui demandent du whisky. Nous, on ne va pas leur acheter du whisky. Voilà.
Deuxième question. Il y a certains pays, notamment dans le moyen, le proche Moyen-Orient, là où ils ont l'habitude de s'habiller, donc ils imposent un style de vêtements. Maintenant, les chrétiens qui se retrouvent dans ce pays, comment doivent-ils faire, par exemple en Arabie Saoudite, là où on demande que les femmes doivent s'habiller en noir avec des foulards, avec des trucs, ces cultures-là vestimentaires. Qu'est-ce qu'une chrétienne ou un chrétien qui se retrouve là-bas, comment il peut se comporter?
Je pense que c'est dans ces pays-là, c'est la loi du pays. La Bible nous demande de nous soumettre aux autorités, pour autant que ça ne contredit pas la Bible. Ça ne contredit pas la Bible de s'habiller de cette manière-là. Et donc, quand on est dans ce pays-là, moi, je ne vois pas d'inconvénient, c'est qu'on s'habille de cette manière, de sorte à se fondre dans la population et pouvoir, d'une manière ou d'une autre, apporter l'Évangile. On ne doit pas être une source de rejet dès le départ. Donc, on doit se libérer de notre culture où on ne s'habille pas comme ça pour pouvoir adopter cette tenue vestimentaire et sauver des gens. C'est ce que notre frère Paul, on va lire ça, Christian, dans 1 Corinthiens 9, 22. C'est ce que notre frère Paul, c'est ce dont notre frère Paul parle dans l'Épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens 9, 22.
J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns.
Voilà. Je me suis fait tout à tous de manière à sauver quelques-uns. Je me suis fait tout à tous sans me compromettre par rapport à la vérité. Mais s'habiller comme cela, ça ne dérange pas la vérité. Ce n'est qu'une tenue vestimentaire, ça, voilà, et qui couvre bien le corps. Maintenant, ça facilite l'évangélisation, ça facilite la fusion dans le pays pour pouvoir parler de Dieu.
Et une autre question. Donc, peut-on pratiquer quelque chose de nos cultures, bien que ça soit pas trop... Voilà. Peut-on pratiquer quelque chose de nos cultures pour essayer de gagner les âmes?
Peut-on pratiquer
quelques...
Oui, mais tant que c'est ce qu'on a, l'exemple vient d'être donné là, tant que ça ne contredit pas la Bible, nous on n'est pas en train de dire qu'on doit révolutionner notre société. Ah non, on dit tout simplement que ça ne doit pas devenir un blocage pour nous, la culture de notre société. Donc on doit être vigilant parce que ça a tendance à nous envelopper et nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Donc on prône la vigilance. Mais on ne dit pas qu'on doit révolutionner notre société, choquer les gens. Non, c'est pas ça qui va sauver les gens. Nous, on se préserve pour éviter que, à la longue, on soit influencé dans notre marche avec le Seigneur. Maintenant, un exemple aussi dans notre société, on s'habille de la manière dont on a expliqué là. On ne va pas choquer en mettant des habits différents. On met ça et ça nous permet de rester dedans pour pouvoir parler de Dieu.
Voilà, il y a une autre question. Quelle nuance il y a entre l'esprit de planification et l'esprit de contrôle?
L'esprit de planification, c'est la logique de la construction à long terme. Donc, j'ai une maison à construire. Donc, je dois prévoir la fondation, les murs, le toit, la peinture. Et ça, c'est la planification. J'ai 5 enfants. On me donne 10 000 euros de salaire. Je dois penser que chaque enfant a besoin de fournitures scolaires. Ceci, cela. Donc, je calcule tout ça. L'esprit de contrôle, c'est quoi? C'est que comment ça va se faire le mois prochain, on ne sait pas, il risque d'avoir un tremblement de terre, donc je garde un peu plus d'argent pour le mois prochain, alors qu'il n'y a aucun problème, mais on veut être sûr que tout va bien se passer en utilisant ses propres moyens. Ça, c'est l'esprit de contrôle. La sécurité sociale exagérée, où on veut être sûr que tout va bien se passer, que nous, au fait, nous, c'est nous qui avons notre avenir entre nos mains. Voilà, c'est ça l'esprit de contrôle. On veut s'assurer que c'est nous qui gérons notre avenir. Or, en réalité, personne ne gère le souffle. Voilà.
Voilà. Il y a une autre question. Paul dit avec les Juifs, il était comme Juif, avec les Grecs comme les Grecs. Est-ce qu'il ne faut pas faire comme le peuple ce qui Dieu nous envoie, ou il faut juste prendre ce qui est bon et qui n'est pas un péché?
Non, c'est ce qu'on vient de dire là. On arrive dans un pays comme Hudson Taylor. Il s'est habillé comme les Chinois. Il a même laissé la barbe comme les Chinois. Moi, je préconise même tu maries une Chinoise, quoi. Voilà. Donc, pour t'insérer dans ce peuple-là et sauver les âmes. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on fait attention à tout ce qui peut nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Comme là, on a parlé de la culture française, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup qui sont en France depuis longtemps, ils sont devenus pareils. Hein. Ils viennent d'ailleurs, mais ils sont devenus aussi pareils. Hein. Donc, il n'y a pas de grande différence entre le français d'origine et le français qui est venu après. Beaucoup sont devenus comme ça. Hein. Donc, et bloquent ainsi l'évangile. Hein. Mais beaucoup sont devenus comme ça sans s'en rendre compte. Parce qu'au fait, ils se disent toujours étrangers dans la tête. Or, leur comportement, quand tu viens d'ailleurs, tu vois bien que c'est comme un Français. Mais lui, il croit qu'il est devenu, il est toujours différent. C'est parce que il est resté dans l'histoire de son origine. Or, quand on voit comment il gère ses finances, comment il se comporte avec la carte vitale, tout ça, c'est exactement la même chose. Même parfois, la nourriture, c'est la même chose. Mais sauf que dans sa tête, lui, il croit que, ben non, comme j'ai gardé encore telle chose de mon pays d'origine, je suis différent. Non. En général, c'est la même. Les gens épousent même les mauvais côtés de la culture d'emprunt. Voilà. Donc il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Mais on n'est pas contre le fait de se rendre semblable aux gens du pays d'accueil pour pouvoir être comme eux, comme Jésus est devenu humain.
Étant chrétien, peut-on partager sa culture avec ses enfants? Exemple, leur apprendre la langue.
Non, mais il n'y a pas de problème à apprendre la langue d'origine aux enfants. Ce sont des choses neutres. Moi, j'ai dit ce sont des choses neutres. Ça, c'est comme Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais si on apprend dans le sens de dire, mais voilà votre vrai pays, moi, je ne suis pas d'accord. Dire aux enfants, voilà votre vrai pays. Nos enfants sont des citoyens du ciel comme nous. Ils n'appartiennent pas à un pays, ils appartiennent à Dieu. C'est des citoyens du ciel. Voilà, mais si on veut leur apprendre une langue de plus, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis du genre à apprendre beaucoup de langues, mais avec le temps, tu te rends compte que mais tu vas apprendre telle langue, tu ne vas pas là-bas. Voilà, il y a des choses, c'est à nous de voir. Ça va servir à quoi? Bon, si la personne n'a pas de contact avec cet endroit-là... Ça, c'est chacun qui est libre de faire ce qu'il veut. Je ne vois pas le mal du moment qu'on leur apprend bien qu'ils sont citoyens du ciel. Ils appartiennent à aucun pays. Ils sont dans chaque pays comme des étrangers, devant vivre en missionnaire, en fusionnant avec les gens du pays. Enfin, en allant ensemble avec les gens du pays. Voilà ce qu'on doit leur apprendre.
Donc, il y a une autre question qui vient d'arriver qui dit « Est-ce que la planification n'est-elle pas contraire à la foi ?»
Non, la planification n'est pas contraire à la foi, puisque Jésus lui-même dit quand on veut bâtir une maison, il faut calculer à la dépense. Donc c'est un gage de sérieux. C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose, tu sais que le toit ça va te coûter combien? Dans 2 ans, le carburant va coûter combien? Ça, c'est la planification. Donc tu planifies tout ça et après tu comptes sur Dieu pour t'aider. Si c'est Dieu qui te demande de faire, voilà. Donc, beaucoup maintenant se cachent derrière la foi pour ne rien planifier et faire des bêtises.
Et mettre de l'argent de côté pour un mariage, Est-ce que c'est une planification ou l'esprit de contrôle?
Mais maintenant, je ne comprends pas mettre de l'argent de côté pour le mariage. Dans quel but?
C'est-à-dire que quelqu'un, ça doit être certainement quelqu'un qui n'est pas encore marié ou comment, qui met déjà de l'argent de côté pour préparer son mariage.
Mais il faut de l'argent pour préparer un mariage.
Parce que là, c'est écrit carrément. Est-ce que mettre de l'argent de côté pour un mariage, est-ce une planification ou l'esprit de contrôle?
C'est la soumission à la culture de notre époque. Vous savez, il y a la culture religieuse, il y a la culture contemporaine du monde entier. Il y a un esclavage avec les mariages. Moi, je suis contre ça. Donc, mettre de l'argent pour préparer quel mariage? Maintenant, s'il faut, dans certaines cultures, payer la dot, là, tu mets l'argent de côté pour payer la dot. Bon, ou bien, il faudrait payer une salle. Oui, mais il y a des gens qui mettent de l'argent de côté sans savoir exactement comment ça va se passer. Il n'y a pas quelque chose qui s'est présenté, mais ils mettent déjà de l'argent de côté. Ça, c'est l'esclavage par rapport au mariage, par rapport au culte des cérémonies. Moi, je ne trouve pas ça biblique.
Donc, la même personne repose. La responsabilité demande à ce qu'on assume pour la réception des invités et autre chose autour quand même.
Les invités?
Voilà, la responsabilité demande à ce qu'on assume pour la réception des invités et autre chose. Donc,
non, mais écoutez, par exemple, on est là, tu as un fiancé, vous avez décidé tel jour vous allez vous marier. Mais c'est logique que vous calculiez, bon, il y aura 300 invités, à partir de là, il y aura tel coût, tel coût, tel coût, tel coût. Et là, on prévoit de l'argent pour ça. Mais quand il n'y a encore rien de cela, mais on met de côté quand même, là, moi je trouve que c'est la soumission à une culture, la culture du monde qui tient à ce que le mariage soit bling bling. Tu ne sais pas, mais tu sais seulement que tu vas taper sérieusement. Non, moi je trouve que c'est la soumission à la culture du monde. Moi, bien aimé, la salle, quand je me suis marié, ça a été pris par quelqu'un d'autre. Moi, j'avais dit au pasteur de l'époque, j'ai dit, moi, ce qui compte, c'est les beignets et les arachides. Il y a les cacahuètes et le beignet. Moi, je suis mis, on prie pour moi, je suis en ordre avec l'Éternel. Je suis le plus heureux du monde. Voilà, je suis en ordre avec Dieu. Mais moi qui avais dit ça, mais je peux vous dire, je n'ai acheté que mon pantalon, la robe de ma femme, ma veste, tout le reste, sale, un frère, avec en plus insistance parce que moi je résistais, il a dit, ah, tais-toi, je prends. Voilà. La nourriture est venu même de la Belgique, de chez la sœur de ma femme. Les bien-aimés, il y avait tellement de choses à manger et à boire que c'est resté trop. Mais sans que moi je dépense. Mais est-ce que j'encourage que les gens ne dépensent pas? Non, je veux dire, hein, quand tu t'occupes de Dieu, Dieu s'occupe de toi. C'est ce que je veux dire. Si les choses sont là, les dates sont fixées, c'est logique. Faire un comportement de calcul pour dire on va faire louer telle salle, on va faire ceci et cela. Maintenant, moi, dans mon cas, ce n'était pas ça qui m'importait, ni la salle, ni tout ça. Moi, ce qui m'importait, c'est qu'on prie pour moi. Mais je disais quand même, on est sur la terre, un peu de beignet d'arachide, ça, c'est pas mal. C'était dans mes cordes. À l'époque, acheter les beignets des arachides, ça pouvait sortir de ma poche. Maintenant, tout ce qui ne pouvait pas sortir de ma poche, moi je dis, mais moi, ce n'est pas ça qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est la prière. Mais aujourd'hui, il y a des gens, ils n'ont même rien donc en vue, il n'y a pas quelque chose d'établi, mais ils mettent déjà de côté. Ça, c'est la soumission à la culture du monde.
Alors, le livre de Lévitique nous dit qu'on ne doit pas on ne doit pas nous conformer aux cultures des pays où nous allons. Et que c'est juste ça, la question, ça doit être à la suite de...
Ok, donc on passe à quelqu'un d'autre. Donc la personne nous a aidés, hein, le Lévitique le dit, donc c'est bien.
Il y en a encore.
Oui, mais c'est bien qu'on change de personne pour... sinon, il va y avoir une... Il y en a qui risquent d'être frustrés. Hein. Oui, oui, oui.
Comment expliquer que la psychologie en France influence de plus en plus les églises ou a de plus en plus de place dans les églises? Est-ce que c'est lié à la culture? Est-ce que c'est une culture de contrôle, de vouloir expliquer
Je crois que oui. Donc c'est lié à la culture qui veut qu'on contrôle, le rationalisme lié à Descartes. Donc le français veut saisir les choses, il veut contrôler, il veut pas que ça soit transcendant. Donc, et vous devez savoir que les cultures aussi, ça bouge. Hein. Les Français n'étaient pas comme ça avant. Quand on dit la chasse aux sorcières, mais c'est des trucs qui ont eu lieu en France. Voilà, donc, on croyait à l'invisible, on croyait que les esprits existent, on croyait à tout ça. Mais est venu un mouvement qui a balayé ça et veut tout expliquer par des phénomènes humains, rationnels. À partir de là, le français officiellement ne veut pas entendre parler de l'invisible, du transcendant, de Dieu, mais il veut tout expliquer d'une manière rationnelle. Et ça, ça a plongé dans les églises où les gens ne veulent pas entendre parler de démons. Ils préfèrent dire que c'est une maladie psychosomatique, hein, maladie, donner un nom humain à la maladie, comme ça il peut gérer par des médicaments. Parce que s'il dit que c'est un démon, il est obligé de dépendre de Dieu. Alors que s'il donne un nom, il se croit un peu fort pour gérer. Et c'est faux, quoi, puisque ces gens-là restent dans les hôpitaux psychiatriques pendant parfois 30 ans, 40 ans. Donc c'est la volonté de contrôler, la volonté rationnelle, de gérer quelque chose à la hauteur de l'homme. On ne veut pas dépendre à 100% de Dieu. C'est la culture. Oui, oui.
Hier, le pasteur nous a rappelé qu'on faisait partie, on parlait tous la même langue avant
la tour de Babel.
Merci, pasteur. Et donc, c'est après que sont nées les cultures. Et alors, ma question, c'est justement comment s'est née les cultures, puisque nous étions... donc nous venions tous du même homme, de la même femme, nous avions tous la même langue. Après, le Seigneur confond le langage et donc les hommes se répartissent sur la surface de la terre, se séparent. Et qu'est-ce qui fait que à tel endroit on se comporte de telle façon, à un tel autre endroit, qu'est-ce qui a fait que justement il y a eu ces barrières, en fait, ces frontières invisibles qui se sont formées d'un endroit à l'autre de l'extrémité de la terre?
Je pense que c'est la langue, hein. D'abord, après les autres choses se sont rajoutées. Je pense que la Bible nous donne la réponse. Il a mis plusieurs langues et la langue a été le socle de bâtir toutes les cultures. À partir du moment où on a notre langue, on se comprend et on fait les choses pareilles. Et ainsi de suite. Moi, je vois je me souviens quand on est parti en Afrique du Sud, dès qu'on est arrivé à l'aéroport de Roissy, les sœurs avec qui on était parti, elles étaient contentes d'entendre le français. Oh, enfin le français, quoi. Parce que là-bas, c'était l'anglais partout. Et donc la langue a une grande force par rapport à la culture. Et dès qu'on arrive à Roissy, tout le monde parle français. Elles ont comme respiré. Donc je crois que la langue a été le socle de construction des cultures, ce qui fait d'ailleurs que même quand on est par exemple ici en France, on doit faire un effort de parler tous français, parce que si chacun commence à parler sa langue, forcément la puissance de la culture va revenir. Essayons tous de parler français pour utiliser le français comme moyen et non pas force de culture, mais comme moyen. Voilà. Et ça nous ramène un peu avant la tour de Babel. On a tous la même langue, le français. Donc on l'utilise comme moyen et non pas comme force de culture. Oui. Les prochaines personnes, c'est préférable de vous signaler pour que on vous prévoie déjà dans, voilà, dans le fonctionnement de la caméra.
Oui. J'aimerais que tu nous expliques par rapport, est-ce que la planification des choses spirituelles ne devient-elle pas une culture religieuse? Ou est-ce que, et puis, est-ce que dans les églises, est-ce qu'il n'y a pas une naissance d'une culture religieuse? Je prends l'exemple. Plusieurs messages qu'on a entendus, par exemple, sur les songes. La Bible nous parle que Dieu parle aussi par les songes. Mais aujourd'hui, on voit dans les milieux chrétiens, dès que quelqu'un dit « j'ai eu un songe », il va dire « non, moi, les songes, je m'occupe pas des songes ». Quand quelqu'un veut prophétiser, on entend dans les milieux chrétiens un esprit de critique depuis quand ce monsieur a commencé à prophétiser. Et dans d'autres assemblées, on entend, on calcule le nombre de minutes que la personne doit prier. Dans des assemblées, par exemple ADD, c'est chacun doit prier à son tour. Mais il y a le nombre de minutes qu'on calcule pour que la personne puisse finir sa prière. Est-ce que la planification, par exemple, du culte, où on sait déjà que dès le départ, à telle heure ça va finir, à telle heure on sait que c'est des offrandes, est-ce que nous basculons pas dans une culture religieuse?
Voilà, nous basculons dans une culture religieuse lorsqu'on ne peut pas bouger. Mais il y a un principe qu'on appelle le principe d'ordre. 1 Corinthiens 14, 33 dit que l'église de Dieu est une église d'ordre. Donc on ne peut pas se rassembler à plus de 100 personnes ne sachant pas quoi on va faire. Voilà, donc il y a un principe d'ordre pour permettre que les choses se passent bien. Maintenant, ce principe d'ordre ne doit pas prendre la place de Dieu. Donc si le Saint-Esprit veut bouger cela, nous devons être soumis et laisser le Saint-Esprit bouger. Moi, je connais des églises, par exemple, où il n'y a pas d'autorité. L'église des frères. Mais en réalité, quand vous êtes parmi eux, vous allez vous rendre compte, en réalité, le tel. On nous appelle tous frères, mais c'est tel frère qui prend la décision, quoi. Voilà. Et parce qu'on va voir que c'est une personne qui va prêcher. Mais qui a autorisé cette personne à prêcher? Donc il y a bien quelqu'un qui l'a autorisé à prêcher. Parce que si on dit qu'il n'y a pas d'autorité, il y a tout le monde est frère. Non, maman, donc moi si je peux me lever, je prêche. Quelqu'un d'autre se lève, il prêche. Mais quand vous allez dans ces églises-là, vous allez voir que c'est toujours une seule personne qui prêche. Il n'y a pas un autre qui se hasarde à le faire. Donc il y a bien un ordre. Voilà. Donc il y a un principe d'ordre. Là où ça devient culture, c'est lorsque ça devient un culte. Donc on est soumis à ça, bloqué à cela. Donc quand, par exemple, admettons qu'un jour on vient, on fait les offrandes avant de commencer le culte. Oh, les gens s'offusquent. Là, c'est devenu une culture. Voilà. Maintenant, il y a des comportements aussi qui sont dus à des échecs dans le passé. Il y a eu tellement de gens qui ont raconté des bêtises par les songes et les prophéties qu'il y en a qui en sont devenus allergiques. Mais je conseille à ces gens-là de ne pas être allergiques, mais d'appliquer ce que la Bible dit, de discerner. Donc si quelque chose n'est pas de Dieu, de discerner, que ce soit les prophéties, les songes, on ne doit pas faire éteindre l'esprit, c'est ce que dit la parole. Mais je sais qu'il y a des traumatismes du passé, où des gens ont raconté n'importe quoi à travers les songes, il y en a qui ont vu des mariages dans les songes, il y en a, voilà. Donc il y a des traumatismes comme ça qui font qu'il y en a qui ne veulent plus entendre parler de songes et de prophéties, c'est pas bon, puisque c'est biblique. Nous devons rester dans ce qui est biblique, dans le discernement, savoir prendre ce qui est bon, enlever ce qui est mauvais.
Oui, pasteur, moi je voudrais en fait juste revenir à ce qui concerne la dot par rapport à la réponse que vous avez donnée qu'il a au frère Patrick. En lui disant comme quoi que dans certaines dots, il y a des gens qui demandent des bouteilles de whisky, il ne faut surtout jamais donner ça. Mais moi, j'ai trouvé ça un peu, je vais dire, un peu bizarre, parce que, et non seulement par rapport à ce qu'on va lire, Mais en lisant bien la parole de Dieu, on voit nulle part là où la Bible nous interdit, comment dirais-je, à prendre l'alcool. Donc la Bible est contre l'ivrognerie, au moins que je me trompe. En lisant Genèse chapitre 34, verset 11, donc j'espère bien que vous connaissez bien l'histoire, mais moi je préfère bien que nous lisons au verset 11 à 12. Sichem dit au père et aux frères de Dinah, « Que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai à ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. » Là, la Bible, ça nous montre comme quoi que devant la dot, ce n'est pas nous, comment tu dirais, qui doivent imposer.
Ah non, la Bible n'a pas dit ça. Bah c'est Sichem, c'est pas une instruction divine.
Ça, c'est la parole de Dieu, pasteur.
Ah, mais Abraham, il a menti, donc on doit mentir.
Mais comme dans Corinthiens nous dit comme quoi que la parole est là pour nous aider, pour nous instruire. Donc ça,
c'est
la
ça que je t'ai posé, non, Raphaël.
La parole, pasteur.
Abraham a menti. Moïse a tué. Est-ce qu'on doit tuer?
Si c'est Dieu qui me demande, je vais le faire.
Non, on n'a pas dit ça. Moïse, quand il a tué, c'est pas Dieu qui lui a demandé. Est-ce que nous, on doit tuer?
Non, mais moi, j'ai dit aussi, si c'est Dieu qui me demande, je vais tuer.
Non, parce que ton raisonnement est le suivant. Puisque c'est écrit, on doit le faire. Maintenant, je te dis, c'est écrit aussi que Moïse a tué. Est-ce que nous, on doit tuer?
Je dis qu'on ne va pas tuer, mais si c'est Dieu qui nous demande...
Non, ça ne tient plus, ton raisonnement ne tient plus. Parce que ton raisonnement, c'était, c'est écrit, donc je dois le faire. Maintenant, moi, je te dis, Moïse a tué. Est-ce qu'on doit le faire? Non, parce que ce n'est pas Dieu qui avait demandé. Donc là, Sichem, il parle, on n'a pas dit que c'est Dieu qui lui a demandé. C'est Sichem qui parle.
Mais parce que moi, je vois aucune raison de refuser à donner à une dot une bouteille de whisky. Hein.
Oui, parce que le whisky, c'est des liqueurs fortes qui ont pour vocation d'enivrer les gens. Et Habacuc 2.15 nous dit ceci. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Donc, les liqueurs fortes sont des choses faites pas pour manger ou quoi que ce soit, c'est vraiment directement dans le souci d'enivrer. C'est pourquoi c'est pas bon de donner ça. Maintenant, si c'est le vin, il y a un côté gastronomique, manger, c'est différent. Mais les liqueurs fortes, leur fabrication, c'est pour enivrer. C'est ça la différence.
Mais devant, devant la dot, ce n'est pas à nous d'imposer à la belle famille.
Non, on peut intervenir, dire je suis chrétien, je ne peux pas. Parce qu'il y a aussi des gens devant la dot, ils vont te dire, son père est déjà mort, puisque son père est mort, va au cimetière faire telle chose pour honorer le papa. Est-ce que tu vas faire? Tu vas dire non, je ne peux pas parce que je suis chrétien. Maintenant, donner le whisky aussi, ce n'est pas bon parce que c'est donner quelque chose d'enivrant à quelqu'un. C'est la même chose.
Et alors, si la belle femme te dit comme quoi que la porte est grandement ouverte pour toi, parce que moi, c'est
non, ce Dieu qui va les convaincre. Ils vont
non, parce que moi, c'est ce qui s'est passé dans mon mariage. Hein. Non, j'ai dit non à d'autres trucs et puis voilà. Et moi, mon beau-père m'a dit comme quoi que ce n'est pas toi qui donnes des ordres ici. Si tu ne veux pas ma fille, et puis dégage. Hein.
Quand c'est comme ça, on prie, Dieu va les convaincre. Il y a des choses qui se font avec des combats, mais Dieu finit toujours par triompher.
C'est pas facile, hein, pasteur.
Oui, mais Dieu nous aide. Dieu nous aide.
Oui, bonjour, pasteur. J'avais quelques questions, mais il y a des questions, je pense que tu as répondu. Je voulais savoir, que penses-tu des médecines traditionnelles pour soigner certaines maladies, notamment des plantes utilisées de façon traditionnelle?
Quand on parle de médecine traditionnelle, il y a deux choses qui se cachent derrière ça. Il y a une chose naturel, qu'on pourrait appeler naturel, dans le sens où je peux, moi, planter de la menthe, de la citronnelle. Quand j'ai la fièvre, je prends la citronnelle. Ça, c'est ce qu'on appelle naturel. Mais dans cette médecine traditionnelle, il y a un côté obscur où on utilise des pouvoirs magiques. Et donc, c'est pourquoi... Il faut savoir quand est-ce qu'on entend par médecine traditionnelle. Si c'est le côté naturel où toi-même tu peux refaire ça, il suffit qu'on t'indique quelle plante cueillir, là il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelque chose qui doit être fait que par ce monsieur-là, et en ayant fait peut-être une sorte d'incantation, ça c'est pas bon, ça c'est magique.
D'accord. Et j'avais encore une question. Que penses-tu d'une femme mariée qui garde son nom de jeune fille suivi de son nom marital, en sachant que son nom de jeune fille porte un nom dans son pays d'origine ou qui est populaire?
Je ne sais pas pourquoi elle garde ça, mais bon, moi je pense que c'est l'intention qui compte. S'il y a une intention de garder un nom populaire, c'est pas bon. Mais si c'est dans la liberté, voilà, tout nous est permis, ça dépend des intentions. Si les intentions nous éloignent du Seigneur, c'est pas bon.
Mais est-ce que l'homme a autorité sur ça, de refuser par exemple de dire que non, tu dois porter ton nom marital? Est-ce que le fait de dire que c'est dans... Enfin, que ça soit elle qui choisit, c'est pas à propos du pouvoir.
Je pense que ça dépend des pays. Hein. Si la France autorise qu'une femme continue à porter son nom, c'est les lois du pays.
D'accord. Voilà, je voulais aussi savoir ce que tu en pensais, je pense que tu as répondu, des serviteurs qui sont en France, qui continuent à prêcher en français et qui ne veulent... qui continuent à prêcher dans leur langue d'origine, en sachant qu'il y a des fidèles qui sont européens, mais ils préfèrent utiliser des interprètes. Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense qu'ils n'ont pas compris les choses de Dieu. Ils devraient retourner dans leur pays d'origine. Quand Dieu nous a amenés en France, il nous a amenés en mission pour nous intégrer avec la communauté française et travailler ici. Donc il ne nous a pas amenés pour faire marche arrière encore. Donc je crois que ça fait partie de ce qu'on est en train de dénoncer, l'influence de la culture sur les choses de Dieu. Et ça freine toujours les choses de Dieu. Ça finit toujours mal.
Et une dernière question, je poserai d'autres plus tard. Un constat, on constate que la culture africaine a pour but... que la sorcellerie dans la tradition.
J'ai pas compris.
La culture, parce qu'on a parlé de culture, il y a la culture française, la culture américaine, oui, oui. Mais on constate que chez les Africains, au niveau de la culture, ça a toujours attrait à la sorcellerie.
Ah non, non, la sorcellerie est dedans, comme partout il y a la magie, la sorcellerie aussi. Hein. Mais je comprends pas, j'ai pas bien compris la question là. Qu'est-ce que ça a à voir? Ou bien, on parle trop de sorcellerie, c'est ça?
Oui, parce que en fait, dans les choses africaines, on va dire que au niveau de leur culture, parce que aujourd'hui
on a trop peur des sorciers, c'est ça?
Voilà.
C'est ce
aujourd'hui, par exemple, en France, on peut dire la culture, on peut manger du fromage, des choses comme ça, mais souvent chez les Africains. La culture va toujours amener derrière quelque chose.
Oui, donc je préfère qu'on dise qu'ils ont trop peur des sorciers.
Oui, voilà.
Voilà, je préfère qu'on dise ça. Effectivement, ils en ont trop peur, ce qui fait qu'il y a des pasteurs aussi qui ont peur, donc malheureusement. Donc ça influence, mais ce n'est pas que. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on remarque là-bas? C'est que. Quelqu'un a un problème. Au lieu de le prêcher Jésus, et que, comme solution à tout, on va préférer chercher qui est à l'origine de son problème. Mais ça va servir à quoi? Qu'on connaisse l'origine ou pas, Jésus peut guérir le problème. Vaut mieux insister sur Jésus, qui peut changer les choses, plutôt qu'insister sur qui est le sorcier. Donc c'est quelque chose qui revient souvent dans... les milieux africains, ce qui fait que même, ça a tellement influencé les gens, même les convertis arrivent jusqu'aujourd'hui à avoir plus ou moins peur de cela. C'est pas normal, puisque Jésus est plus puissant, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc c'est très important, et il y a des gens qui racontent comme un tel pasteur a été frappé par des sorciers, mais c'est pas des vrais pasteurs, donc il faut pas suivre ça. Même un chrétien nouveau converti est celui qui est en lui est plus fort que tous les sorciers d'un pays réunis. Tant que lui ne les attaque pas, il n'a pas de problème. Si eux, même s'ils sont 10 000, ils attaquent un nouveau chrétien, ils ne pourront rien faire. Jésus est le maître de l'univers. Il est plus puissant que n'importe qui. Donc si tu as Jésus en toi, tu n'as peur de personne. Maintenant, on ne te demande pas d'aller attaquer les gens, les magiciens. On te demande de marcher selon l'esprit. Maintenant, quiconque t'attaque n'a pas de puissance contre toi. Puisque déjà, Jésus en toi est vainqueur de leur chef Satan. Et qu'est-ce que peuvent faire les ouvriers? Rien du tout. Donc, je crois qu'il y a aussi ce problème-là, c'est vrai. Mais il y a tant de choses qu'on peut citer dans les cultures qui influencent après l'évangile, la façon de travailler avec Dieu. Et moi, je vois aussi de l'autre côté, par exemple, dans le milieu franco-français, mais beaucoup vous diront, mais il ne faut pas les déranger les démons, quoi. Voilà, mais non, mais c'est comme si les démons sont plus forts que celui qui nous protège. Non, Dieu est plus puissant que n'importe quel esprit. Tant qu'on est dans sa volonté, rien ne peut nous arriver. Oui.
Il y a encore une question.
Il y a Bertrand, ça fait longtemps qu'il a demandé, il risque de quitter la salle en colère.
Il y a une question internet. Donc, c'est certainement en rapport avec ce qui a été dit hier. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé des démons? Si oui, donc le Saint-Esprit cohabite avec les démons, vu qu'une personne née de nouveau porte la marque de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit.
Bon, donc, cette logique-là, on a déjà entendu ça régulièrement, mais dans la Bible, il n'y a aucun verset qui dit qu'un chrétien ne peut pas être habité par un démon. Il n'y a aucun verset qui le dit. Ceux qui ont forgé cette théorie, qui semble biblique, mais ils ne se basent sur aucun verset pour dire qu'un chrétien ne peut pas être habité par un démon. Il n'y a aucun verset qui le dit. C'est venu du milieu français qui ne veut pas entendre parler des esprits de démons. Ils ont conçu cette logique-là comme quoi un chrétien ne peut pas être habité par un démon. Comme ça, ils n'ont pas à chasser les démons. Ils ont juste à prier que la grâce de Dieu se manifeste. Nous disons, un, la Bible ne le dit pas. Et deuxièmement, cette logique selon laquelle, oui, mais s'il pouvait avoir des démons en lui, mais comment les démons peuvent cohabiter avec le Saint-Esprit? Donc, est-ce qu'un chrétien, il peut lui arriver de pécher? Oui, un chrétien peut pécher, mais quand il pêche, ce péché-là, il est là où le Saint-Esprit aussi est. Hein? C'est dans le même chrétien. Donc, je pense que quand on invente une théorie, on cherche à la défendre par des versets, ça ne tient toujours pas, parce que ça ne tient pas avec la logique du péché. Comment le chrétien pêche, le Saint-Esprit est toujours en lui. Donc, n'utilisons pas notre logique pour bâtir de théories. Utilisons la Bible. La Bible ne dit nulle part qu'un chrétien ne peut pas être habité par un démon. La Bible ne dit pas non plus qu'il peut être habité. Voilà. Donc ne créons pas quelque chose. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a eu à chasser des démons, des gens qui se disent chrétiens. Donc maintenant, doit-on remettre en question leur foi? Non, ça c'est entre eux et Dieu. Nous, on voit ce qu'on voit. Donc, s'il y a un esprit qui se manifeste chez quelqu'un, nous le chassons. Nous ne nous disons pas, mais tiens, laissons-le souffrir le temps de résoudre ce problème de doctrine. Non. Le démon est là, il se manifeste, on le chasse. Oui.
Ma question donc fait référence au texte que tu as donné au départ. Donc dans Éphésiens chapitre 2, je vais lire le verset. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Dans ce verset, il y a deux. L'apôtre Paul fait référence à deux conformément. Deux fois le mot conformément. Donc d'une part, il y a conformément à la façon de vivre de ce monde. Et deuxièmement, enfin, je sépare, mais peut-être il ne faut pas séparer, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les rebelles. Et dans une certaine littérature chrétienne, on entend parler des esprits territoriaux. Est-ce que, sur le plan spirituel, dans le monde des ténèbres, ma question c'est de savoir s'il y a des esprits territoriaux, d'une part, qui agissent sur des pays, des régions du monde spécifiques pour influencer la culture. Et ce n'est pas seulement une question de mœurs, d'évolution, comme dans le premier conformément, où ça vient de l'homme. La culture est fabriquée par l'homme au fur et à mesure des années. Là, il y a quand même une puissance que beaucoup rejettent, une puissance de ténèbres. Alors, que dire, que penser à ce sujet ?
Ah oui, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des puissances des ténèbres derrière les cultures. On n'a pas dit que c'était juste l'homme, hein. Il y a aussi des puissances qui sont là pour maintenir les hommes dans ça. Parce que l'homme ne peut pas se maintenir tout seul pendant des siècles. Il y a forcément des puissances démoniaques qui sont là pour le maintenir dans certaines choses. Et en tant que serviteur de Dieu, nous devons détecter ces choses-là et lutter contre ça pour libérer les gens. Souvenons-nous, le Seigneur dans Marc 16, 17, il dit, on va lire Marc 16, 17. Marc 16, 17.
Marc, chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues.
Voilà, et puis ça continue. Hein. Ils imposeront des mains aux malades, ils seront guéris. Jésus commence par dire, ils chasseront les démons. C'est étonnant. Hein. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc ça veut dire que c'est les démons font partie de la vie d'un incroyant. Donc quand tu crois, l'action qui vient en général, c'est que les démons qui t'environnaient sont expulsés. Et quand on arrive dans un territoire pour évangéliser, il y a des esprits qui vont nous résister, qui maintenaient ce peuple-là dans une façon de faire. On a prié pour l'Inde récemment, avec le système de castes, où il y a 7 castes, avec la septième caste des intouchables, qui sont voués aux basses besognes, récolter les excréments dans les toilettes des gens, toutes ces choses-là. Mais c'est des esprits qui maintiennent ces gens-là en esclavage. Puisque dans la religion hindoue, ces gens-là, ils sont considérés comme ayant eu une mauvaise vie autrefois. C'est pourquoi ils se sont réincarnés en intouchables. C'est pourquoi ils souffrent. Et donc ces gens-là ne vont même pas chercher à quitter la souffrance. Parce qu'ils se disent que c'est le salaire de notre vie ancienne, d'une ancienne vie. C'est des esprits qui les maintiennent en esclavage. Donc notre travail, quand tu arrives en Inde, un de tes premiers adversaires, c'est les démons directement, parce que ce sont les démons qui maintiennent ces gens-là dans tout ça. Donc il ne faut pas sous-estimer. Donc on ne les voit pas, mais ils sont en action. Derrière tous les points qu'on a cités là, c'est les démons qui sont derrière.
Voilà. J'ai deux autres questions. Une concernant la devise de chaque pays. Chaque pays a sa devise. Bon, en France, c'est liberté, égalité et fraternité. Est-ce que là, il y a un rapport direct avec la culture du pays ou seulement l'histoire ou...
Ça influe sur la culture, puisque surtout sur des pays, comment dire, des pays plus ou moins démocratiques. Donc, quand la devise a été faite, elle a été faite par les gens en même temps qui ont fait la constitution du pays, la loi de base du pays, c'est la constitution. En général, les gens qui ont fait la constitution, c'est eux qui ont mis les devises, ainsi de suite. Ils ont une idée derrière. Quand on prend l'exemple de la France, liberté, égalité, fraternité, l'idée est que tout le monde soit pareil. C'est pourquoi le Français n'accepte pas que l'autre soit très riche. Voilà, donc quand un Français a un voisin très riche, c'est tout le temps des murmures. Il se fâche tout seul contre le voisin ne lui a rien fait. Il suffit que le voisin vienne en Mercedes, après le lendemain, il vient en Porsche, le Français, il se fâche. Mais ce n'est pas ton problème, mais il se fâche parce que liberté, égalité, fraternité, et beaucoup de stars françaises parlent de ça. Elles sont parties vivre aux États-Unis, en Suisse, ils disent, mais en France, on ne peut pas vivre. Donc, ils ne veulent pas voir un riche. Donc, liberté, égalité, fraternité, tu ne dois pas être différent de nous. Ça conduit à la pauvreté parce que les riches finalement quittent le pays et le pays reste à un niveau constant, ça ne bouge pas. Alors que l'Américain, quand il a un voisin riche, il se dit, que faire pour lui soutirer l'argent ? je vais lui proposer de commencer à sortir son chien. Comme ça, lui, il va s'occuper de fructifier son entreprise. Moi, c'est le temps de sortir son chien. Moi, je sors, il me paye. Donc, l'Amérique, qu'est-ce qui va se faire? C'est que le voisin va devenir encore plus riche, mais lui, il gagne aussi quelque chose. Donc, tout le monde s'enrichit. Donc, l'Américain va se dire, que faire pour que mon voisin qui est riche m'enrichisse aussi? Mais je vais inventer un service à lui proposer. Et finalement, tout le monde monte. Mais le Français va dire, oh, il se prend pour qui? Avec chaque mois une voiture. Mais voilà. Et à partir de là, le riche finira par se sentir mal à l'aise et s'en aller. Et c'est le village qui va s'appauvrir. C'est ça le problème. Maintenant, le noir va se dire quoi? Ce n'est pas normal. Allez, sorcellerie, on coince l'autre. Esprit de crabe. Ça veut dire les crabes, quand vous les... Il paraît, je n'ai pas vu ça. Quand vous mettez les crabes dans un panier, personne, vous n'avez pas besoin de mettre de couvercle. Il paraît que le crabe qui essaie de sortir, les autres vont le rattraper, le ramener à l'intérieur. Ça, c'est les Africains. Donc, quand un est en train de s'en sortir, les autres font tout pour le ramener. Il faut l'égalité, mais dans la perte. Le Français veut l'égalité, mais dans la constance. On reste toujours tous pareils, mais on vit bien ensemble. Mais voilà, tout le monde mange, tout le monde est soigné, mais pas question de Mercedes, pas question de limousine. Voilà. Mais l'Africain, bon, tout le monde doit être pauvre. Donc, et c'est ça la sorcellerie. Donc, on a vu des gens, comme on dit là-bas, manger leur fils qui leur payait la maison. Donc, dans la sorcellerie, ils tuent le monsieur qui leur donnait l'argent pour payer la maison, qui leur donnait l'argent pour les nourrir. Ce sont les réalités que nous devons dénoncer pour être libérés de ça. Et il ne faut même pas en avoir honte. Il faut être content de distinguer ça, de dire, oh, Dieu m'a sauvé de ça. Maintenant, je veux combattre ça. C'est ça la réalité. Chaque pays a ce problème-là face à la richesse, comment les gens réagissent. Pourquoi les Américains sont riches? Parce qu'ils vont, quand il y a un riche, ils vont le favoriser pour qu'il soit davantage riche. Parce qu'ils savent que quand lui, il est davantage riche, donc forcément, nous tous, on va en profiter. En France, ils ne vont pas accepter ça. Ils vont dire non. On veut tous manquer de rien, mais pas que quelqu'un saute. On reste pareil. En Afrique, là même, tous, il faut qu'on manque. Donc, c'est ça la différence. Donc, on doit lutter contre tout ça. Ce qui fait que dans les églises, vous allez voir, quand tu vois quelqu'un être élevé par Dieu, travailler sérieusement, ben, tout le monde se ligue contre lui. Voilà. Et en France, quand un serviteur de Dieu commence à faire les choses selon Dieu, pareil, on veut qu'il fasse les choses comme tout le monde. Donc, c'est... Non, les Américains vont dire, mais tiens, Dieu utilise cet homme-là, accrochons-nous à lui pour qu'il soit une locomotive pour nous entraîner. C'est la mentalité est différente et ça produit des résultats différents. C'est ça la puissance des cultures.
Ma troisième question, ça concerne le rapport entre connaissance et culture. Connaissance entre guillemets scientifique. Il y a des choses qui, hier... était considérée comme une donnée scientifique, médicale, plus exactement, médicale, et qui aujourd'hui, on fait le... comment dire, on dit l'inverse. Je veux parler, quand moi j'ai commencé mes études d'infirmier en psychiatrie, j'ai travaillé en psychiatrie, dans le manuel d'infirmier, l'homosexualité apparaissait comme une anomalie touchant la vie sexuelle de la personne. Hein. C'était donc une maladie à soigner. Et effectivement, dans les années 80, début des années 80, c'était écrit noir sur blanc dans les livres de médecine, pour infirmiers aussi. Et aujourd'hui, bien sûr, il ne s'agit même pas d'aller de défendre ça. En fait, il y a des choses qu'on appelait connaissances autrefois, qui aujourd'hui sont passées dans la culture, puisque dans la culture en particulier occidentale, l'homosexualité est acceptée et elle est
Et ça influe sur la connaissance.
Et ça influe sur la connaissance.
Sur l'instruction.
Oui.
Ça influe sur l'éducation nationale. Ça influe sur les universités. Donc quelque chose que on a considéré comme une forme de maladie est devenu, par la puissance de la culture, parce qu'entre-temps, les films amènent une culture, les gens changent, le péché augmente. Le péché augmentant, on tente de légaliser ce qui existait comme étant un mal. Puisque le péché augmente, on change ça. Et nous sommes voilà, dans la fin des temps. C'est pour dire aussi que les cultures bougent en fonction de la puissance prédominante. Il y a une puissance prédominante qui va imposer une façon d'être. Et les gens suivent, ça devient la nouvelle culture. Et, ainsi de, et ça, c'est un exemple. Et c'est pourquoi le chrétien doit être ferme sur la Bible, ne pas bouger, parce que de toute façon, les cultures même bougent. Pourquoi suivre quelque chose qui bouge? Il faut suivre la Bible qui ne bouge jamais. Oui.
Moi, je vis habituellement en Afrique centrale et c'est pourquoi je veux poser cette question. Quelle est l'attitude que doit avoir un chrétien face à ce qu'on appelle les veillées mortuaires?
Le chrétien ne doit pas aller passer toute une nuit dans une veillée mortuaire. Quelqu'un est mort. Parce que là, il faut que je explique le contexte aux autres. En général, en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Dès que quelqu'un meurt, on vient l'assister de 23h jusqu'au matin. Il faut être là. Et puis, bon, maintenant, quand on travaille, comment on peut faire de 23h à 6h du matin et ensuite aller au travail et revenir encore? Et ça, c'est un. Deux, maintenant, nous, on est des chrétiens. Le Seigneur a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Il a voulu nous dire par là, on ne doit pas faire une sorte de culte d'éveillé, d'enterrement. Donc le chrétien doit venir manifester sa compassion, pleurer avec ceux qui pleurent, et après un certain temps, retourner chez lui. Il ne doit pas se sentir obligé. Maintenant, si dans sa liberté, il veut dormir, ça c'est dans sa liberté. Mais ce que Dieu lui recommande, ce n'est pas de dormir. Ce que Dieu lui recommande, c'est de manifester la compassion. Il manifeste la compassion, il bénit les gens et il s'en va. Bien sûr que ça sera mal interprété, mais ça fait partie des chocs que nous avons à affronter pour changer les choses. Donc partout dans le monde, nous affronterons des chocs pour changer les choses. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'avancée, de percée spirituelle sans obstacle, sans choc. Il y a toujours des chocs et des obstacles. C'est comme ça que les choses bougent. Voilà. Donc je pense que c'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Venir soutenir les gens, les bénir et puis dormir. Voilà. Le mort, il est déjà mort. Si veiller jusqu'au matin et ressusciter les morts, bon, là, on aurait peut-être compris, mais même ça, bon, donc voilà, on laisse entre les mains de Dieu. Mais je pense qu'il y a une exagération sur tout ce qui concerne la mort. Et le jour de la fin de tout, les gens s'habillent comme si c'était une grosse fête. Ils viennent s'attaquer avec les vêtements et plein d'autres choses. Non. Donc un chrétien doit résister à tout ça. Le jour de la fin de tout, tu viens en t-shirt. Voilà. Oui.
Moi, je voulais revenir sur un problème qui a été soulevé tout à l'heure par rapport au fait que est-ce qu'un chrétien peut être habité par un démon? En fait, ça m'est resté dans la tête parce que je n'ai pas trop bien compris. Ma question, c'est de savoir, en fait, ce que je pose comme question, est-ce que si c'est le cas, ce n'est pas le chrétien qui a ouvert des portes? Parce que pour moi, je trouve évident qu'un chrétien vraiment qui a Christ ne soit pas habité par un démon. Ça peut arriver s'il a ouvert des portes. Là, je suis d'accord.
Oui, mais nous, on est en train de parler de ça. Mais parce que quand un chrétien ouvre des portes, est-ce qu'il cesse d'être chrétien?
Non, il reste chrétien.
Il reste chrétien, donc il peut ouvrir des portes et être habité par un démon.
Ah, d'accord, parce que j'avais pas compris.
On ne dit pas qu'il est pur et il est habité par un démon. Non, on ne dit pas ça. On dit tout simplement qu'il peut arriver qu'il ait ouvert des portes et qu'ils soient habités par un démon. Il n'y a pas que l'ouverture de porte, il y a aussi l'héritage. Il y a des gens, quand ils se sont convertis, ils n'ont peut-être pas subi de délits, on n'a pas chassé les démons, et que certaines choses sont restées. Et donc, ce n'est pas parce qu'il est devenu une nouvelle créature que ces choses sont forcément parties. Donc là, on peut prier, chasser les démons de ces personnes-là.
D'accord, merci pour la précision.
Oui, pasteur, je voulais poser une question par rapport à la planification. On voit aujourd'hui, il y a des pasteurs qui veulent bâtir des assemblées, mais ils veulent gérer ça comme des entreprises. J'ai vu une émission où on voyait un pasteur qui présentait son assemblée et il disait déjà, en fait, toutes les villes où il allait se planter, mais on avait l'impression que c'était plus commercial. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Ça vient des États-Unis, hein, donc c'est une logique entrepreneuriale où voilà, l'Église est devenue comme une entreprise qui doit se multiplier à la manière des entreprises du monde. Donc je suis pas d'accord avec ça. C'est le Saint-Esprit qui bâtit l'Église. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon Église. C'est le Seigneur lui-même qui bâtit son Église. Et il le bâtit en fonction des appels qu'il fait aux uns ou aux autres. Il appelle des humains. C'est les humains qui bâtissent l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la construction des cellules, des salles, non. Là, si l'Esprit te pousse à le faire, d'accord, mais faire ça d'une manière mathématique, je pense même que dans cette émission-là, on donnait à chaque église 6 mois pour faire une autre église encore. Chaque église devait avoir 6 mois pour faire une autre. Donc, c'est une obligation mathématique. Ce n'est pas biblique, ça. Ça, ce n'est pas biblique. C'est Dieu qui fait les choses par son Esprit Saint.
J'avais juste une autre question aussi. Je pense que tu as répondu, mais je voulais comprendre. C'est que tu expliquais que, en fait, une personne étrangère qui arrive dans un pays, automatiquement, il a ses cultures. Et quand il arrive dans ce pays-là, il abandonne ses cultures. Mais il vient quand même, quelque part, prendre des nouvelles cultures dans le pays où il est sans s'en rendre compte. Donc, comment on sait à peu près...
Non, je dis non. Pourquoi? Au fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Premièrement, ta question m'aide à revenir sur un sujet qui vient souvent. C'est que Dieu, d'une manière physique, quand il nous permet d'aller nous installer dans un autre pays, d'une manière physique, il nous libère de l'ancienne culture. Parce qu'il sait que l'ancienne culture nous bloquait d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, les immigrés sont une bénédiction et pour leur pays d'origine et pour le pays d'accueil. Parce que c'est des gens, on a vu le cas de Saul de Tarse. Le Seigneur a bien vu qu'avec les gens, les pierres, ça va être difficile de continuer l'Église dans le monde entier. Parce qu'ils ont un problème. Ils ont une racine juive qui a du mal à supporter qu'un païen soit vraiment un élu qui soit au même niveau que le juif. Il a suscité Pierre et Paul qui étaient juifs, mais qui avaient vécu à l'étranger, à Tarse, qui est né à Tarse, qui a grandi là-bas, parce qu'ils pouvaient comprendre qu'il y ait autre chose. Et c'est la même chose avec tous les immigrés. Un immigré, c'est quelqu'un que Dieu délivre physiquement de son pays parce que chaque pays a des dominations qui bloquent les gens. Et quand il te sort de ton pays, physiquement, il te libère. À toi de saisir cette libération et de continuer. Si tu ne saisis pas, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives dans un nouveau pays, tu commences à rappeler tout ce qui était de ton ancien pays. Tout vient de là-bas. Tout vient de là-bas. Donc finalement, tu n'es pas libéré. Maintenant, quand tu arrives dans le nouveau pays, ben il faut discerner en tant que missionnaire les esprits qui règnent dans le pays. Ben tu vas voir ces esprits comment? Dans la culture. Ils se cachent souvent dans la culture. Donc ça doit être notre boulot, quand on arrive dans un nouveau pays pour s'installer, de discerner dans la culture quels sont les esprits qui règnent. Ça va nous aider à travailler dans ce pays-là comme il faut. Et ne pas se faire piéger aussi.
J'avais aussi une autre question, c'était en Afrique, on a aussi des, on va dire des assemblées qui, eux, justement, sont dans la culture. C'est-à-dire qu'ils vont prêcher, par exemple, que que des choses liées à la culture, liées. Ils ne veulent pas d'autres choses, on va dire, qui viennent de l'Occident.
Mais les choses ne viennent pas d'Occident, ça vient de la Bible.
Oui, parce qu'ils disent que la Bible a été importée par.
Ah là, tu parles des religions africaines, tu ne parles pas d'Église.
Oui.
L'Église, c'est Jésus et la Bible. Là, ce sont les religions africaines, c'est-à-dire des gens qui se sont inventés des messies noirs. Ben, ils sont complètement dans l'erreur parce que leurs faux messies noirs sont morts, enterrés, ils ne sont pas ressuscités. Donc là, c'est même pas une discussion. Là, ils sont complètement dans l'erreur. Il n'y a qu'un seul messie, c'est Jésus de Nazareth.
Et j'avais encore une dernière question. C'était par rapport, je veux beaucoup accentuer sur les Africains afin qu'ils puissent être délivrés. Il y a des personnes africaines, par exemple, qui arrivent en Europe et qui ont été envoyées, par exemple, par leur oncle, leur tante. Et quand ils arrivent ici, ils se sentent obligés de pouvoir envoyer mensuellement quelque chose là-bas. Sinon, comme tu expliquais tout à l'heure, si par exemple ils n'en voient pas, ils vivent des choses spirituelles compliquées dans leur vie. Donc qu'est-ce que tu peux leur dire à ces personnes-là?
Je dis à ce que je peux dire à tout chrétien, c'est qu'il faut faire les choses dans un esprit de miséricorde, de bonté, d'amour, et non pas de contrainte. Là où il y a la contrainte, il y a l'obligation, il n'y a pas Dieu. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si tu veux aider ta famille, aide de bon cœur parce que Dieu le veut, honore ton père et ta mère, mais pas parce que c'est obligatoire. Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas être esclave et croire que c'est ton argent qui va sauver les gens là-bas. C'est Dieu qui va sauver les gens. En tout cas, moi j'ai dit à ma famille clairement, si je mange, c'est Dieu. Donc vous aussi priez Dieu, Dieu pourvoira vos besoins. Mais entre-temps, si j'ai quelque chose et que je peux vous aider, je vais vous le faire. Mais je vous exhorte plus que tout à chercher Dieu. Voilà.
Si je peux juste une dernière question. Que penses-tu des cotisations qu'on doit tout le temps cotiser par rapport à la famille? Il y a quelque chose que tu cotises. Il y a un problème, on t'appelle, tu cotises. Donc qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est une forme d'esclavage aussi?
C'est une forme d'esclavage et moi je parle pour moi, j'ai résisté à ça. C'est pourquoi on ne m'appelle pas pour les cotisations, parce que je dis que moi, quand j'ai de l'argent, j'aide, je n'appelle pas les autres pour cotiser avec eux. Donc si j'apprends que quelqu'un souffre, j'envoie de moi-même. Je n'appelle pas mon frère, ma soeur pour dire on doit tous envoyer quelque chose à un tel. Je trouve que non, là c'est perdre sa liberté. Donc si je suis convaincu, maintenant si on m'appelle et que ça coïncide avec le Saint-Esprit que je peux faire quelque chose, je le fais. Mais que ça soit systématique, je résiste à ça. Je ne fais pas toujours. Parfois, je fais ça 2 mois en retard, donc ce n'est plus d'actualité, mais je suis le Saint-Esprit. Donc, je crois que le chrétien doit faire les choses par le Saint-Esprit. Quand il se met dans un système, il est manipulé par ce système et les esprits passent par ce système-là pour l'attaquer d'une manière ou d'une autre. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons clôturer puisqu'il n'y a plus de questions. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à suivre la parole de Dieu, à être vigilants. Peut-être que on se dit c'est compliqué tout ça, mais c'est pas compliqué, c'est une question de croire en Jésus. Et Jésus a fait de nous de nouvelles personnes. Nous devons considérer que nous sommes comme des anges. Jésus nous a sauvés. Il nous a amenés au ciel. Et du ciel, il a décidé de nous renvoyer sur la terre en mission. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. À partir de ce moment-là, nous sommes citoyens du ciel. Et nous sommes venus en mission sur la terre, non pas pour être esclaves encore d'une culture, d'une façon de faire, esclaves de tel mode, parce qu'il y a des cultures contemporaines, il y a des modes aussi. On n'a pas à être esclave des modes, on n'a pas à être esclave de la culture religieuse, puisque dans le passé, on a toujours fait comme ça, donc on est obligé de continuer à faire comme ça, puisqu'on a fait pas comme ça dans le passé. C'est la culture religieuse, non. Nous devons suivre l'Esprit Saint à travers sa parole. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, nous prions que tu nous aides, dans le nom de Jésus, à marcher selon ta parole, par l'Esprit Saint à ne pas être esclave ni d'une culture religieuse, ni d'un système humain, ni de notre pays d'origine, ni de notre pays d'accueil, mais à faire les choses de sorte que ça favorise l'avancement de l'Évangile sur la terre. Aide-nous par ton esprit, nous t'en prions, ô Père, et que tout soit fait pour ta gloire. Merci Seigneur de nous avoir soutenus. Seigneur, nous avons fait ce séminaire parce que nous voulons qu'il y ait des missionnaires au milieu de nous, des gens qui vont aller travailler, à gauche, à droite, pour sauver les âmes. Et si certains étaient bloqués, Seigneur, nous prions que tu les délivres de tout ce qui était comme voile, chaîne liée aux cultures qui les empêchaient de décoller. Et pour ceux qui peuvent décoller maintenant, Seigneur, nous prions que tu les rendes vigilants, que tu nous rendes vigilants partout où nous irons, que nous soyons attentifs à la culture pour ne pas nous faire piéger, attentifs à la culture pour savoir comment délivrer les autres. Aide-nous, Seigneur, aussi à être humbles, à ne pas voir la culture chez l'autre, à regarder aussi chez nous-mêmes. Avant d'accuser les autres, qu'on regarde en nous-mêmes d'abord. Dans tous les cas, Père éternel, purifie-nous par le sang de l'agneau de notre passé. Délie-nous par la puissance du Saint-Esprit. Et remplis-nous du Saint-Esprit pour dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous demain à 10h.